Et on va chercher des idées ailleurs, mais on a aussi quelques-unes qui sont bonnes quelquefois à Montréal ou au Québec. Et on essaie d'apprendre et de voir qu'est-ce qu'on peut traduire dans nos pratiques, dans nos processus de décision, pour améliorer notre milieu urbain, qui est le lieu où, pour toujours, on va être appelé à vivre et à cohabiter. Donc l'expérience de Strasbourg est particulièrement intéressante, et la conférencière de ce soir est encore plus intéressante que l'expérience qu'elle va nous faire vivre. Elle a fait des études en littérature. Vous voyez, la littérature, ça mène à beaucoup de choses. Il y a quelques étudiants dans la salle. Catherine Trottmann est connue en particulier pour sa victoire à la mairie de Strasbourg, dont elle devint première femme maire, à gauche, d'une ville de plus de 100 000 habitants, poste qu'elle occupa de 87 à 2001, en plus d'être présidente de la communauté urbaine de Strasbourg. En parallèle, parce qu'en France, on peut faire certains cumuls de fonctions, pas tout à fait. Alors, elle a occupé un certain nombre de postes ministériels, secrétaire d'État au ministère du ministre des Affaires sociales, ministre de la Culture, pour être ensuite députée européenne jusqu'à cette année. Et c'est elle qui a été la grande responsable de toute la relance de Strasbourg à partir d'une stratégie autour des transports collectifs, de l'intermodalité, mais surtout de la colonne vertébrale d'un tramway qui a permis de requalifier au complet la ville. Donc c'est un projet dont elle va nous parler ce soir avec un regard d'évaluation critique, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'années qui se sont passées, puis elle est capable de vivre avant, puis de vivre après. Je vais quand même lui redonner aussi un certain nombre d'hommages. Elle est chevalier de la Légion d'honneur, elle est commandeur des arts et des lettres, docteur honoris causa de l'université de Leicester, en plus de cumuler de nombreux prix et présidences d'organismes. Elle est reconnue pour son franc-parler que nous allons mettre à l'épreuve ce soir. Nous sommes très, très heureux de l'accueillir parmi nous, fiers qu'elle ait choisi de venir à Montréal pour nous parler de sa magnifique expérience. Mais juste avant de lui céder la parole, je vais céder le micro à ma collègue Coralie Denis, parce que la conférence Urba de ce soir est organisée conjointement avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, je cède la parole à Coralie, puis je vais vous donner des explications pour comment ça va se passer, et puis on va passer la soirée ensemble.
Merci, Florence. Bonjour tout le monde. Alors, oui, ça me fait un très grand plaisir d'être ici, d'ailleurs avec mes collègues et le président du Conseil régional de l'environnement de Montréal. On est vraiment ravis, puis on lui a dit beaucoup quand elle est arrivée, mais je tiens à le répéter devant tout le monde, on est vraiment très, très content que Mme Trottmann ait accepté l'invitation qu'on lui a faite il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça a été assez rapide la réponse et c'est très apprécié. Parce qu'au Conseil régional de l'environnement, on se préoccupe beaucoup d'aménagement, de transport, pour toutes les raisons que vous connaissez, puisque vous êtes probablement ici ce soir, donc les sujets ne sont pas étrangers à vous. Et Mme Trottmann, on est content parce qu'elle vient pour quelques jours ici et on lui fait une tournée des décideurs, des personnes qui, à Montréal, dans la grande région de Montréal et même un peu plus loin, sont là pour prendre les décisions sur comment on aménage nos villes, comment on transporte les personnes dans ces villes et comment donc on construit nos villes de demain. Et on trouvait ça très, très important dans un moment où actuellement on est en réflexion importante à Montréal dans plusieurs projets, de faire venir une personne de cette importance-là qui a vécu ça et qui va pouvoir nous parler à la fois des contraintes qu'elle a vécues, mais quoi on est arrivé aujourd'hui, puis comment on y est arrivé, comment les gens le vivent aujourd'hui. Parce qu'on veut faire la démonstration, et ça, ça nous tient à cœur au Conseil régional de l'environnement, de faire la démonstration que c'est possible de le faire. Et je pense, Florence a très bien, je pense, décrit Madame Trottmann. On a déjà pu voir qu'elle avait un franc-parler, en effet. Et je suis convaincue que, en effet, tout ce qui est, ce qu'elle va nous apporter en termes de choix qu'il faut faire, de changements qu'il faut opérer, c'est des changements majeurs, des choix majeurs. On ne peut pas aller dans les demi-mesures. Et à Montréal, on est devant ces choix-là. Puis, je vous laisserai avec quelques mots. On parle beaucoup de réseaux autoroutiers. Vous savez, dans la région montréalaise, des projets de réfection, ils sont par milliards de dollars en termes de réseaux routiers. Et dès qu'on arrive dans transport collectif, transport actif, aménagement, ça se réduit à des projets qui manquent d'ampleur. Alors, on souhaite vraiment, et on est convaincu qu'avec l'exemple qui va être donné ce soir et toutes les informations, qu'on va repartir encore plus outillés et convaincus qu'à Montréal aussi, on peut faire un gros virage et pas un demi-virage. Puis, rappelez que Strasbourg, c'est dans le nord-est et il fait quand même assez froid. Pas aussi froid que Montréal l'hiver, mais on est loin du midi et du sud de la France, ce qui fait qu'on est quand même dans une situation relativement similaire. Alors, on est vraiment contents, puis on espère que ça va mener, évidemment, pour nous, à Montréal, avec des changements de cap majeurs. Alors, je vais laisser la parole à Florence pour nous expliquer la soirée. Merci.
Alors, ça va être bref. Merci, Coralie. Alors, comme d'habitude, Catherine Trottmann va faire sa présentation. Il y a un petit vidéo au début. Et 50 minutes, une heure. Ensuite, une période d'échange et de questions, jusqu'à ce que vous ayez trop faim pour continuer.
Je me présente, Jacques Durillac. Je suis mandaté par la CEPES, agissant pour le compte des ponts et chaussées. Voici ma carte.
Vous êtes-vous déplacé hier?
Oui, je suis parti de chez moi, 210 route de Mittelhausberger.
En voiture, vraisemblablement?
Oui, en voiture, pour aller à mon bureau, place Kléber.
Très bien. À quel endroit de la ville aimeriez-vous voir implanter un parc de stationnement?
Bien, place Kléber, mais alors un parc plus grand.
C'est entendu. Accepteriez-vous le principe du stationnement payant?
Oui, mais un franc la journée, par exemple.
Bon. Eh bien, monsieur, j'en ai terminé. Il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu collaborer à notre travail.
Je vous en prie.
La ville de Strasbourg se penche depuis très longtemps sur le problème de la circulation et du parking. Le but principal était de neutraliser les véritables bouchons qui se forment à certains endroits de la ville, créant une perte de temps, une perte d'argent, un énervement collectif pour les usagers privés et pour les transports publics. Le seul moyen à Strasbourg pour réduire les embouteillages est d'éviter le passage d'une ou plusieurs files de voitures dans les deux sens sur des voies qui ne sont pas conçues pour cela, dans des étranglements, des goulots, en somme, particulièrement gênants aux heures de pointe. C'est ainsi que sont nés ce que l'on appelle déjà les grands sens uniques.
Vous êtes monsieur établi, fleuriste rue des Grandes Arcades. Est-ce que cette nouvelle réglementation de la circulation sera bénéfique pour vous?
À premier avis, non. À mon premier abord, il me semble que ça ne peut pas être bénéfique, surtout pour le problème du stationnement, pour le déchargement de notre marchandise. Et deuxièmement, le client qui était habitué à s'arrêter rapidement, ne serait-ce qu'une minute, pour prendre livraison de son bouquet, il ne pourra plus le faire, étant donné qu'il faudra qu'il arrive dans l'autre sens.
La municipalité de Munich, en créant ses rues piétonnières, ne s'est pas seulement préoccupée de favoriser le commerce, elle a eu aussi le souci de donner un regain de vitalité au centre de la ville, et elle s'est efforcée, comme vous avez pu le voir, de l'embellir. Il y a tout un aspect de décoration, d'esthétique, on a mis en place des bacs à fleurs, des vitrines, des fontaines. Et, en somme, ce qu'on a voulu, c'est donner une âme à Munich. On a voulu réagir contre la tendance qu'on observe dans d'assez nombreuses villes, surtout en Allemagne d'abord, d'ailleurs, à considérer les rues même du centre comme de simples axes de circulation dans lesquels on doit circuler le plus vite possible. Bien, nous attendons de ces rues piétonnières que d'abord elles attirent l'attention sur le charme de nos vieux quartiers pittoresques. Il faut que les rues piétonnières deviennent des points particulièrement vivants de la ville et qu'elles attirent les Strasbourgeois, bien entendu aussi les touristes.
Trin Trottmann.
Bonsoir mesdames et messieurs, je suis particulièrement ravi de me retrouver parmi vous, d'abord parce que j'aime Montréal et parce que les personnes qui m'accueillent sont éminemment sympathiques et parce que je crois aussi qu'il n'y a rien de tel que l'échange, le débat, pour pouvoir aborder de manière active et concertée les questions d'aménagement urbain. Je crois profondément à un mot qui est très difficile à pratiquer en ville, c'est l'urbanité. C'est un mot qu'on emploie peu, c'est pourtant un mot qui désigne un art de vivre en ville, mais pour les urbanistes, les élus qui décident, c'est aussi un art de faire la ville et de permettre que chacun puisse en faire sa ville et y habite de manière agréable, efficace et en même temps décide de continuer d'y vivre ou même de revenir y vivre. C'est un enjeu. Lorsque les centres-villes perdent des habitants, lorsque on a des problèmes de bouchons, de circulation, de pollution. Et je voudrais dire que après celui que vous avez entendu avant que nous coupions la vidéo, M. Pierre Flimelin, qui a été maire pendant plus de 20 ans et qui ne conduisait pas, ce qui le rendait absolument inopérant sur la question des croisements, de plans de circulation automobile, mais même avec le transport, qui avait lui-même d'ailleurs à l'époque décidé de supprimer le tramway, qui a été celui qui avait pensé qu'il fallait le réintroduire, mais qui, contrairement à ce qu'il a dit dans cette vidéo au moment de l'inauguration des premières rues piétonnes, avait maintenu deux axes de circulation à sens unique, dans un sens et dans l'autre, ce que l'on appelait les ondes vertes, qui empêchait les habitants du centre-ville âgés de pouvoir traverser d'un bout de quartier à un autre. Nous étions malgré tout dans la situation où, malgré quelques zones qui avaient été piétonnisées en effet autour de la cathédrale, là où se massaient les touristes, nous avions à côté de ces zones piétonnes des véritables autoroutes urbaines qui pratiquaient une véritable césure, à la limite d'ailleurs, comme on peut avoir un périphérique qui coupe des quartiers ou une voie ferrée qui peut aussi la couper. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs, regardez où passent les autoroutes et regardez où passent les voies ferrées, et de l'autre côté, vous avez du logement social. C'est en tout cas le cas en France. Pourquoi ? Parce qu'à côté des autoroutes, à côté des voies ferrées, on a des délaissés. Et que les délaissés sont pas chers du point de vue du prix du foncier, et que c'est là qu'on a souvent construit, dans les années 60, 70, du logement social. Alors faire de la ville avec ça, pour moi, ça a été un enjeu, et je voudrais, avant de rentrer dans la présentation, vous dire quelles ont été mes motivations de départ, puisque, en fait, nous avons été élus, contre toute attente, dans une ville conservatrice, une équipe de gauche, qui militait pour la réalisation d'un tramway quand le maire sortant, qui avait succédé à celui que vous avez entendu, Pierre Flimelin, donc son successeur, qui est un homme charmant, avec qui je m'entendais d'ailleurs très bien, mais qui n'arrivait pas, a pensé qu'il était possible de réduire l'espace utilisé par l'automobile dans la ville, et qui du coup, pour éviter d'affronter les commerçants, pour éviter d'affronter les opposants, avait décidé qu'il valait mieux choisir un métro léger souterrain. Et donc, nous avons fait cette campagne en 1989, projet contre projet, et ça a été un élément de débat assez important, assez intense, assez considérable. Pour moi, au-delà de l'urbanité, il y a une expression qui a été l'équivalent, en réduit, en deux mots, de ce qui était ma proposition de transformation de la ville. Je l'ai appelé l'égalité urbaine. Comment, dans une ville, faire en sorte que les quartiers soient égaux, disposent de la même qualité architecturale de traitement urbain des espaces publics, mais qui puissent aussi donner le sentiment aux habitants d'être traités comme des citoyens égaux entre eux, quel que soit l'endroit où ils habitent et quel que soit leur niveau social. Ce que vous ne verrez pas sur les diapos, enfin sur les slides que je vais passer, c'est ce sur quoi nous avons commencé par travailler. C'est-à-dire sur un état de la circulation, sur un état du fonctionnement urbain, mais aussi sur un bilan social de la ville. Combien y avait-il d'habitants qui quittaient le centre-ville ? Qui habitait le centre-ville ? Des étudiants, des personnes âgées qui habitaient dans des vieux appartements qui étaient assez inconfortables et qu'elles ne payaient pas cher. Qui avait droit, en quelque sorte, de cité dans le cœur de Strasbourg, et qu'est-ce qui posait problème? Ça a été très intéressant de travailler sur tous les quartiers de la ville avec cette vision de la situation sociale des habitants et de ce que représentait leur accès à l'emploi, leur accès au transport, le coût que ça représentait aussi dans leur porte-monnaie de ménage. Et je pense que la donnée citoyenne, la donnée du débat public, passe par cela. Il était nécessaire de pouvoir démontrer qu'une transformation de la ville était d'abord, passée d'abord par du lien que l'on pouvait créer entre les quartiers, entre les habitants. Je dois vous dire que tout le monde l'a compris et que je ne vous dirai pas les horreurs qui ont été dites par les opposants de l'époque, parce que ce sont des insultes racistes qui transformaient le mot de tram avec le plus léger, c'était le tram qui lie Auchan et Mammouth. Ce sont, vous savez, des supermarchés qui étaient à chaque bout de la première ligne. Pour le reste, ça désignait des personnes, si possible, d'origine étrangère. Et je n'utiliserai pas ces mots, je ne les utilise jamais. Donc, il y avait bien un enjeu qui n'était pas seulement un enjeu politique, au sens de la politique publique que l'on peut mener en matière de déplacement, mais un enjeu politique qui était celui de reconnaître que chacun ou chacune, quel que soit son âge et sa situation, pouvait profiter de ce qui est considéré comme un patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire notre cœur de ville. Et j'avais été interpellé par une enquête qui parlait des pratiques culturelle des jeunes à l'époque, et qui disait que la première pratique culturelle des jeunes, c'était de se rendre au centre-ville. C'était pas d'aller au cinéma, c'était pas d'écouter de la musique, c'était d'aller au centre-ville. Et donc je me suis dit, le centre-ville doit appartenir à tous.
L'autre enjeu était aussi de donner en centre-ville un espace suffisant qui soit celui qui correspondait non pas à la ville moyenâgeuse ou à la ville du XIXe siècle, mais à la ville du XXe et XXIe siècle, c'est-à-dire de l'agglomération métropolitaine qui passe de 150 000 habitants à 200 000, 240 000, aujourd'hui 270 000 pour ce qui concerne Strasbourg, mais qui est du demi-million à l'échelle de l'agglomération. Et donc, passer à cette échelle suppose d'avoir, si on veut que la ville soit agréable et conviviale, qu'on ait des espaces agrandis, qu'on ne puisse pas disposer seulement d'un centre, mais de plusieurs centralités, que l'on puisse rechercher les points d'équilibre dans le tissu urbain et que l'on puisse le transformer ainsi. Et donc, ce travail a passé par le choix d'un plan de déplacement urbain. Nous n'avons pas proposé de construire un tram, point à la ligne, nous avons proposé de mettre en œuvre un véritable plan de déplacement. Pourquoi un plan de déplacement urbain qui n'existait dans aucune circulaire, dans aucun règlement d'urbanisme en tant que tel, ni non plus d'ailleurs dans la loi à proprement parler, la loi d'organisation des villes, c'est parce que le sujet est complexe et qu'il est conflictuel. Et qu'il suffisait de voir comment le piéton était rejeté sur les bords des trottoirs, comment le cycliste n'arrivait pas à se frayer un chemin dans les embouteillages, pour mesurer que le premier à être en danger était le piéton, le second était le cycliste, le transport public n'était pas un mode choisi, mais en fait contraint de transport pour ceux qui n'avaient pas de véhicule particulier ou pour certains déplacements uniquement, et évidemment la voiture était reine. Je précise que, contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais dans notre équipe, et moi-même en particulier, été anti-bagnole. Il n'était pas question de dire « on va supprimer la voiture dans Strasbourg ». Non. Simplement, vous ne pouvez rien changer, et ça c'est sûr, si à un moment donné, vous n'introduisez pas un partage de l'espace. Et ce partage de l'espace, je vous propose de le visiter à partir de celui qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque nous avons un réseau qui est un réseau important, j'y reviendrai après, de tram. Nous avons des bus, nous avons aujourd'hui en transport public urbain rapporté à la population, à la taille de la ville, le plus grand réseau de transport public de France. Nous sommes aussi la première ville cyclable de France et nous voulons devenir la première ville piétonne de France. Et voilà pourquoi je vais vous inviter, comme on me l'a proposé, à rentrer dans le cœur de la présentation. Avec une petite citation qui commence de Raoul Wenningen. On verra bien que la vie quotidienne renferme une énergie qui déplace les montagnes et supprime les distances. D'abord, un petit aperçu de la situation géographique. Vous avez vu la ville ancienne, je vais vous proposer un zoom. Donc vous avez l'Alsace en France, dans l'Europe, et vous voyez cette petite tache bleue qui est une petite région par rapport à notre hexagone, qui a 904 communes et un peu moins d'1 900 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui réunis avec la partie allemande, qui est ce grand territoire qui fait face à la tache rouge, qui est notre communauté urbaine de Strasbourg. Pourquoi est-ce que nous avons cette sorte de disproportion dans cet eurodistrict? Eh bien, c'est parce que nous devons avoir la parité d'habitants. Et pour avoir la parité d'habitants de l'autre côté du Rhin, il faut un territoire beaucoup plus grand. Mais parce que la ville voisine de Kehl, la ville voisine de Strasbourg, est une ville qui atteint les 50 000 habitants. Donc au total, l'eurodistrict, qui a été possible par la loi, et qui aujourd'hui est une réalité tout à fait intéressante et que nous voulons concrétiser par la 7e ligne de tramway qui va traverser le Rhin et joindre les deux villes, la ville de Strasbourg et la ville de Kehl voisine, nous voulons donner une configuration d'agglomération dont le cœur de cette agglomération, vous le verrez plus précisément, est en fait constitué par deux ports, le port de Strasbourg et le port de Kehl. Nous sommes organisés au-delà de la ville-centre, la ville de Strasbourg, avec son maire, Roland Rist, un conseil municipal tout à fait habituel, je dirais traditionnel, en communauté urbaine depuis 1967. Dans ces années-là, il avait été décidé au niveau français qu'il fallait des métropoles d'équilibre par rapport à Paris, par rapport à la capitale. On a donc choisi, non pas de considérer les villes telles qu'elles étaient, il y avait Marseille qui était une grande ville, Lyon, mais en dehors de ces deux villes, peu de villes pouvaient être de véritables contrepoids, et donc il a été proposé en fait de rassembler dans une structure intercommunale qui est devenue de plus en plus intégrée, qui n'est pas élue au suffrage direct, mais qui, je pense, un jour le deviendra, finalement le cœur d'une agglomération de type métropolitain. Aujourd'hui, cette communauté urbaine, qui fait donc 306 mètres carrés, 456 000 habitants, 28 communes, vous avez les chiffres pour Strasbourg avec le nombre d'étudiants, cette communauté urbaine va se transformer le 1er janvier 2015 en eurométropole, puisque une nouvelle loi en France a choisi de soutenir ce qui fut dans le passé ces métropoles d'équilibre, de soutenir la transformation en véritable métropole avec des compétences intégrées. Il faut dire que notre pratique des compétences et ce que nous avions réussi à obtenir à Strasbourg était déjà pratiquement identique à ce que la loi permet aujourd'hui aux autres villes de France. Et nous sommes dans les 5 régions du Grand Est français, la seule métropole qui correspond à toutes les fonctions qui ont été déterminées dans le cadre de cette loi, mais nous sommes, je dois le dire, la plus petite. Vous pouvez peut-être, je l'espère, voir les chiffres sur l'évolution des parts modales entre 1988, 97 et 2009 entre les différents modes de transport. Vous voyez pour le centre-ville, en 2009, nous sommes à 51,5% de part modale pour la marche, 13,9% pour le vélo. Nous avons ensuite sur le transport urbain, le TCU, 12,3%. Mais je vous laisse voir, en 1988, nous avions plus de marcheurs, mais nous avions beaucoup moins de cyclistes, la moitié de cyclistes, et nous avions en transport en commun, comme on le disait à l'époque, 4,3% de transport d'usage pour le centre de Strasbourg. Et vous avez les mêmes chiffres qui correspondent aux différents quartiers de Strasbourg. C'est un aperçu de ce que représentent les différentes étapes. 88, c'est un an avant notre arrivée en fonction à la mairie de Strasbourg. 1997, c'est à peu près à mi-parcours. 2009, c'est le moment où nous avons acté, disons, un certain nombre de nouvelles décisions, après avoir voté, d'ailleurs, à l'unanimité, notre stratégie de développement ECO 2020. La politique de déplacement de la communauté urbaine de Strasbourg à présent. Dans les années 80 et 2000, nous avons en fait choisi un certain nombre d'axes. D'abord, développer l'offre de transport public autour du réseau tram, donc cette ligne qui 6 lignes en vigueur et une 7e. Réduire le trafic automobile dans le centre-ville et en direction du centre. Je précise que en fait, le centre-ville de Strasbourg perdait des habitants, était dans une situation assez critique. Le commerce commençait à battre de l'aile. Nous avions de plus en plus de commerces qui fermaient. Et nous nous rendions compte qu'il y avait un effet de thrombose qui était un effet physique. De plus en plus, les heures de pointe étaient de plus en plus dépassées. Et au fond, c'était pratiquement toute la journée que le cœur de la ville était thrombosé. En regardant et en observant les choses, il y avait un constat, et nous avons, j'ai été la première à l'aborder de cette façon. On peut considérer le transport comme moyen d'aller d'un lieu à un autre. On peut considérer le transport dans son économie et dans sa fonctionnalité comme un élément qui appartient à la qualité de vie et donc qui est profondément lié aussi à la santé. Or, ce que j'avais constaté à l'époque, puisque nous avons un phénomène atmosphérique particulier qui est connu à Los Angeles, qui est connu à Athènes, qui est une couverture, si vous voulez, qui garde la pollution. On a un effet de dépression, de cuvette, qui fait que toutes les pollutions stagnent dans la vallée rhénane, et nous avons été considérés comme l'un des sites les plus toxiques en pollution atmosphérique. On a travaillé avec les entreprises, on a travaillé avec les industriels dans le cadre d'un plan de dépollution atmosphérique, mais les deux sources de pollution, et vous le savez, restent l'habitat et le transport. Et en 1988, il était clair que 60% des attaques polluantes sur les pierres de la cathédrale provenaient des gaz d'échappement, et les pathologies, notamment des jeunes enfants, étaient de plus en plus graves, des bronchiolites, des allergies, des bronchites, des rhinopharyngites à répétition, bref, des maladies respiratoires qui étaient très pénalisantes pour les jeunes enfants, mais aussi pour les seniors. Et donc, j'ai pu présenter le choix de réaliser le tram et un plan de déplacement urbain, parce que pour faire marcher les gens, il faut une atmosphère respirable. Pour faire rouler des cyclistes, il faut aussi éviter les pics de pollution. Et donc, le projet était d'abord aussi un projet de santé publique. Je tiens à le dire parce que je pense que c'est un aspect qui est aujourd'hui commun, mais à l'époque, personne ne raisonnait de cette façon. Il fallait tout simplement se rendre à un endroit le plus rapidement possible. Donc, la réduction du trafic automobile était bien un enjeu majeur, puisque un enjeu lié à cet effet de thrombose, lié aussi aux dégâts, dégâts de santé, dégâts économiques, dégâts sur le patrimoine public classé patrimoine mondial. Et il fallait que l'on puisse, à ce moment-là, compter sur le choix et la liberté rendue aux usagers de l'espace public, traités à égalité entre l'automobiliste, le piéton, le cycliste et l'usager du transport public. Je dis bien à égalité, ce qui est compliqué, parce que l'automobiliste est le plus puissant dans l'espace public. Il a l'habitude de revendiquer la priorité et il considère que lorsqu'il est au volant, il exerce une liberté qui lui appartient et qui est déterminante et qui ne peut pas être endiguée. C'est la liberté de circulation. Simplement, chacun est libre de circuler et chacun peut circuler selon son choix et selon son mode. Donc, il a fallu expliquer aux gens, et ça n'était pas facile, qu'avoir un plan de déplacement qui traite du piéton, du cycliste, de l'usager du transport public ou de l'automobile était quelqu'un qui pouvait être les quatre, mais qui pouvait choisir son mode en fonction de son besoin de déplacement. Et que par conséquent, la réorganisation, le partage de l'espace et des modes dans l'espace public était une manière de restituer à l'usager plus d'espace, plus de choix et donc plus de liberté. Alors qu'on dit, en général, que lorsqu'on va limiter la circulation automobile, on s'en prend à la liberté fondamentale des gens. Eh bien, je pense que non. Nous avons démontré que nous pouvions redonner davantage de choix et davantage de liberté. Le développement du réseau cyclable, aujourd'hui nous sommes à 580 km, vous voyez sa taille, dont des itinéraires rapides, ce n'est pas des autoroutes à vélo, mais on peut rouler vite. La mise en place de rocades de contournement pour rediriger la circulation transit par des boucles de circulation. Au centre-ville, donc, nous avons à l'époque, en 1992, doublé les espaces piétonniers, et donc en particulier la place centrale, et nous avons coupé les axes de transit. Et c'est ça qui a été le plus difficile. C'est comme, à un moment donné, vous garrottez la circulation sanguine, et bon, ça ne circule plus. Et ben, en 1992, un certain jour de février, on a coupé la circulation. Et j'ai profité, en fait, du fait qu'on allait commencer le chantier pour opérer un acte, faire un geste qui serait définitif et qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste. Plus personne. Bon, depuis longtemps, d'ailleurs, tout le monde l'approuve. Alors que là, je vais vous dire, j'ai appelé ça le corps à corps. J'ai évité les coups. Et il y en a, je peux vous dire, je les ai évités de justesse. Et c'était très, très violent. Des écologistes voulaient s'accrocher dans les arbres parce que j'avais enlevé des marronniers, 30 marronniers, dont la plupart étaient malades. Les gens pétitionnaient partout. Mes filles planquaient pour voir, parce qu'il y en avait qui signaient 3 fois, 4 fois. Donc j'avais des pétitions en veux-tu, en voilà. Et il a fallu tenir le choc, puisque les gens, quand on distribuait nos tracts et qu'on expliquait, qu'on donnait nos plans, les gens venaient shooter dans les tables où on avait nos explications et s'en prenaient, surtout à mes collègues hommes, en les molestant. Et donc ça a été en même temps un débat public, un débat de mots et de gestes. C'est pour ça que parfois on a parlé de la geste du tram à Strasbourg. Pour ma part, j'ai été traité de trottmanator. Et d'ailleurs, ça a été très dur, d'ailleurs, parce que on me montrait avec une tronçonneuse j'étais censé tronçonner tout ce qui bougeait ou qui bougeait pas, d'ailleurs. Et donc, je m'en suis sorti. Si vous avez une question, je vous dirai comment. Mais ça a été assez compliqué. Mais de toute façon, ça avait commencé durement, parce que vous savez, quand j'ai été élu, il y a des Strasbourgeois qui m'ont dit on a voté pour vous parce qu'on était sûr que vous ne seriez jamais élu. Alors j'ai dit, bon, bah écoutez, c'est bien comme ça, moi il faut que je m'habitue, vous aussi. Et donc ça a été une rencontre un peu rugueuse. Donc la politique de rééquilibrage de la place de différents modes de transport tient compte de cette évolution démographique, du développement urbain, de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on est rodé, si vous voulez, pour tenir compte de ces 3 facteurs. Les 3 axes majeurs articulent la politique des déplacements de Strasbourg. C'est maîtriser, organiser, réduire la circulation automobile, c'est vrai depuis le début, et on continue. Développer les alternatives à la voiture particulière et transformer, requalifier les espaces urbains. Et nous avons utilisé le tramway comme un moyen de requalification urbaine. C'était aussi le choix d'un transport de surface, non seulement parce qu'il permet le partage de l'espace, mais aussi parce qu'il est porteur d'une requalification. Pour arriver à faire la pédagogie, nous avons fait 3 photos qui ont circulé dans le monde entier, qui ont beaucoup été repompées. Vous avez sur votre gauche 300 véhicules sur un axe qui était une onde verte. Vous avez l'équivalent, 300 personnes dans 3 bus, et vous avez à droite une rame de tram. Et vous voyez ce que ça représente dans l'espace urbain. Lorsque les gens ont vu ça, ils ont compris que quand on disait qu'on restituait de l'espace urbain pour les différents usages de déplacement en ville, ça signifiait quelque chose. Donc, d'abord, maîtriser, organiser la circulation automobile. Dans centre-ville, là vous avez une représentation du centre à cette époque. Donc vous voyez qu'on a en bleu un certain nombre de boucles de circulation. Le fait de couper en piétonnisant le centre nous a amené à faire des voies de contournement, 4 boucles, 4 pétales de marguerite, comme nous les appelions à l'époque, pour éviter les itinéraires traversants. Ce qui nous a permis d'avoir un usage beaucoup plus serein du centre-ville, beaucoup moins conflictuel, d'avoir en fait un autre travail sur la circulation de desserte et le rééquilibrage en fait de la circulation dans les abords du centre-ville. Quand on regarde l'évolution du trafic automobile dans la CUS entre 1990 et 2012, vous avez là un graphique tout à fait intéressant, puisque vous voyez, alors je regarde, je ne vois pas très bien même avec mes lunettes. Le plus, donc à droite, le plus bas, c'est 2012. Et là, vous avez la flèche, c'est une indication sur la transformation des voiries qui ont permis d'organiser les secteurs piétonniers dans de meilleures conditions et qui ont de fait réduit la circulation automobile de manière beaucoup plus significative et beaucoup plus rapide. Donc vous voyez le point dont nous sommes partis et vous voyez le point où nous sommes rendus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne circule pas quand même facilement dans Strasbourg. Vous avez à droite une carte qui vous indique les différents échanges qui ont lieu dans Strasbourg avec les petites flèches qui vous donnent la portée, l'importance des différents échanges. Donc, si je vous explique très rapidement, vous avez en fait un trafic stable, ce sont les flèches noires, et vous voyez à proximité du centre qu'il existe des flèches noires qui restent les échanges interquartiers ou les échanges du centre vers le sud, du centre vers le nord ou du centre vers l'ouest. Et vous avez en fait une évolution entre 2005 et 2008 avec toutes les flèches bleues qui sont les flèches où en particulier on a la diminution des échanges, une pacification de la circulation automobile. Reste un point rouge ou deux qui sont des points où on a eu un développement de construction d'habitat sans effet tramway à ce stade-là. Alors je vais vous montrer ce que donnaient les aménagements et ce pourquoi le tram a été plébiscité. C'est une vocation pédagogique. J'avais fait photographier la ville avant et on l'a photographiée après parce que les gens oublient. Et aujourd'hui, quand on a remontré ces photos aux Strasbourgeois, ils n'en revenaient pas. Vous avez l'arrivée vers la place de la République avant et vous l'avez après. C'est-à-dire, vous avez une place qui est devenue un véritable parc urbain. Vous avez un boulevard, le boulevard de la Victoire. Vous allez le voir avant. Vous voyez dans la petite photo. Tout cet espace était encombré de véhicules qui stationnaient. Et aujourd'hui, dans cet endroit, vous avez un axe cycliste qui est l'axe d'accès aux universités, au campus, et un axe rapide, et vous avez en même temps de la circulation piétonne. Sur cet axe, sauf aux heures de pointe, vélo, il n'y a pas de conflit parce que l'espace est assez grand. On peut même d'ailleurs passer et traverser sur les stations de tram. Ici, on a donc on avait deux voies de chaque côté de cet espace central. Nous n'avons plus qu'une voie de circulation automobile, du stationnement linéaire en bord de voirie, sur un seul côté, et le cœur de ce boulevard qui est organisé pour les piétons et le vélo avec le tram qui passe de part et d'autre. Vous avez là une autre vision sur la requalification urbaine. C'est l'avenue du Général de Gaulle, quartier des années 60. On voit l'urbanisme, très peu de plantations, une petite malheureuse terrasse qui existe là un petit peu, on ne sait pas pourquoi. Et vous avez aujourd'hui... je vous le montre parce que vous voyez comment on a organisé le passage du tram, la traversée des piétons sur quatre traversées. Vous avez le tram qui est sur son tapis vert entouré de plantations et vous avez les petites taches de couleur. C'est une exposition en milieu urbain de sculpture qui permet aux gens, puisque nous avons accompagné la réalisation du tram par l'intervention d'artistes qui ont participé par leur œuvre à l'existence d'un projet qui était important pour la qualité de l'espace urbain. Vous avez cette exposition qui est là et qui permet aux gens de garder aussi un rapport avec la forme urbaine, mais en même temps aussi la forme des œuvres. Et je sais qu'à Montréal, c'est un sujet qui vous concerne. Je crois aussi qu'à Strasbourg, on a cherché par moment le contraste entre les échelles. L'échelle, comme vous l'avez vu, du tramway, de ces sculptures, qui amène un regard au niveau du piéton, un regard droit, direct, mais vous avez aussi les grands immeubles et la possibilité de regarder, si vous voulez, à des échelles plus hautes. Mais c'était déjà le cas avec la cathédrale, puisque longtemps la cathédrale a été le bâtiment le plus haut de toute la chrétienté. Et donc, on est habitué à Strasbourg d'avoir ce regard aspirant vers le haut en particulier. Vous avez là la place de la cathédrale, j'en parlais. Voilà ce qu'elle était avant, ce qu'elle est aujourd'hui, avec les terrasses. Et donc, je voudrais dire que quand vous regardez ça, avant, après, eh bien, les commerces ont été particulièrement, je dirais, soutenus par l'attractivité du centre-ville. Les gens sont revenus se rencontrer, utiliser le centre-ville, ça a soutenu le commerce. En fait, aujourd'hui, le commerce de centre-ville reste la première zone commerciale de toute la région. Ce n'est pas une zone commerciale avec des grandes surfaces. Il y a quelques grands magasins, il y en a deux, c'est tout. C'est du commerce de proximité, c'est du commerce de boutique. Et ce commerce de boutique est la première force commerciale de toute la région. Et nous avons été primés plusieurs fois pour le dynamisme commercial. Alors c'est vrai aussi qu'on a eu une confrontation tellement violente avec les commerçants que nous avons dû chercher des solutions, indemniser ceux qui étaient gênés dans les chantiers, mais en même temps aussi travailler avec eux sur l'attractivité, sur la sécurité. Et on a fait plusieurs opérations d'animation et de retour des achats au centre-ville, développer aussi les livraisons par des coursiers. La requalification urbaine, ça c'est la place centrale, la place Kléber, qui était la place la plus débattue. Donc vous avez une place après, et vous avez une place avant, toujours les drapeaux, mais vous avez les véhicules qui tournent tout autour. Aujourd'hui c'est un espace de déambulation, c'est noir de monde à certains moments du jour ou de la nuit. Et c'est donc cet espace dont je parlais, c'est-à-dire cet espace agrandi, la place Kléber, telle qu'elle était entourée par les véhicules, était désespérément vide toute la journée. En ce qui concerne le déplacement du réseau, donc je parlais des 7 lignes, là on a aujourd'hui 65 km de lignes commerciales, 29 lignes de bus, 95,3 millions de voyageurs par an, 170 000 cartes Badgeo, et vous voyez que si nous sommes partis de la première ligne qui était la ligne descendante en bleu foncé, qui continue, vous voyez, enfin, elle est bleu foncé, mais après elle est un petit peu bleu plus clair, 19 km de première ligne, et nous sommes aujourd'hui, comme vous le voyez, à 65 km. Ce qui est le plus grand réseau proportionnellement donc en France. Je voudrais simplement vous donner aussi quelques autres chiffres pour que vous ayez une idée de l'usage qu'en font les Strasbourgeois. Nous avons eu plus 23% de fréquentation entre 2009 et 2013. Je le cite parce qu'il n'y a pas eu de ligne importante, il y a eu des améliorations de lignes. Et il y a eu l'ouverture d'un bus à haut niveau de service. Mais nous n'avons pas, comme par le passé, eu une grande ligne construite, ce qui veut dire qu'au point où nous en sommes du réseau, le réseau produit une augmentation par lui-même de l'usage. Nous gagnons en voyageurs et en voyages parcourus par les habitants de manière extrêmement significative. Et nous arrivons à 117,6 millions de voyages pour 475 000 habitants sur le territoire de l'agglomération. Nous avons 125 000 abonnés, soit 25% de la population de la communauté urbaine. 125 000 abonnés, c'est des gens qui ont une carte, c'est pas ceux qui achètent le ticket à l'unité. Donc vous avez aussi les gens qui choisissent l'achat du ticket à l'unité. Nous avons 40% de taux de couverture et donc une réponse, si vous voulez, qui est particulièrement favorable. En ce qui concerne le plan piéton, nous avons eu une délibération le 23 janvier 2012, donc c'est assez récent, au Conseil municipal, votée à l'unanimité. Je vous donne un extrait. C'est la référence aujourd'hui dans tous les documents d'urbanisme qui doivent respecter les orientations qui ont été décidées dans ce cadre. Et nous avons, dans le cadre d'un réseau piétonnier, décidé d'avoir des axes que nous appelons magistraux, qui relient les centralités de quartier. En fait, il est important de constater que nous avons une ville, vous le verrez une illustration un petit peu plus tard, que nous avons une ville comme ici, une ville qui a aussi ses quartiers, qui est un peu une ville archipel, et le but de ces itinéraires piétons, c'est d'arriver à ce que les piétons circulent davantage que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Un déplacement sur trois est effectué exclusivement à pied dans la communauté urbaine. Un déplacement sur deux, 52%, dans le périmètre du centre-ville de Strasbourg. Et nous avons 532 000 déplacements par jour qui sont effectués exclusivement à pied dans l'agglomération. La barre verte que vous voyez, c'est Strasbourg. Nous avons Paris, qui a davantage de circulation piétonne, et Marseille. Ce sont les grandes villes où il y a une obligation de marche à pied. Mais chez nous, c'est pour d'autres raisons. La marche à pied au cœur de l'intermodalité, vous voyez ici avec les zones de concentration en rouge et les zones en bleu. Vous voyez en particulier que les zones bleues qui entourent les points rouges, ce sont les trajets autour des stations de tramway. Et vous voyez que dans le centre-ville de Strasbourg et par l'extension de cette centralité, on arrive à une véritable poche bleue qui montre que petit à petit, du cœur de l'agglomération qui est la grande tache rouge au milieu, vous avez aujourd'hui une expansion de la circulation piétonne, mais qui se fait essentiellement encore par rabattement vers les transports publics. Donc la réponse du transport public est une réponse qui soutient le développement de la marche. Quand on regarde un petit peu plus directement, 800 mètres est la distance médiane parcourue à pied en 10 minutes. Un déplacement sur deux dure moins de 10 minutes, c'est la durée médiane. Un déplacement sur quatre dure entre 10 minutes et 30 minutes, soit environ 2,5 km. Donc vous avez le tableau qui l'indique. Nous avons encore un quart de déplacement court, moins de 1 km, qui sont effectués en voiture. Sur 100 déplacements de moins d'un km sur la CUS, vous voyez ce que ça donne. La marche à pied, c'est ce qui est en ocre. Vous avez le vélo qui est en vert, le transport en commun en orange et les véhicules particuliers en bleu. Mais vous voyez que pour les trajets courts, la marche à pied est effectivement choisie. Voilà l'image dont je vous parlais. C'est une question que nous nous sommes posée, la ville archipel. Si on la regarde autrement, c'est une autre carte que celle que vous avez vue tout à l'heure. C'est une carte qui se complète avec le nombre d'habitants, etc. Mais vous avez quand même des quartiers, mais ça c'est lié à l'histoire de l'agglomération. Vous avez des phénomènes de coupure, des autoroutes, des voies ferrées, des canaux, des rivières. Et vous avez donc ce qu'on peut appeler une sorte de ville-archipel. On marche, comme vous l'avez vu, beaucoup dans les quartiers, en particulier à proximité du transport public, mais on ne marche pas entre les quartiers. Lorsqu'on fait cette photographie de la marche à pied, on voit qu'on ne marche pas entre quartiers, qu'il n'y a pas de liaison entre quartiers. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que nous voulons travailler. Donc là, si on regarde les distances, vous avez dans le premier schéma, vous avez les petites distances de moins de 1 km et moins de 12 minutes. En rose, vous avez la part du piéton. En rouge, vous avez le transport public. En vert, le vélo. Et en bleu, le véhicule particulier. Et donc, vous voyez qu'entre 1 à 2 km, vous voyez l'importance déjà de la croissance du véhicule particulier, mais vous voyez aussi la croissance du transport public. Mais sur cette distance, le vélo est encore très utilisé, alors qu'il l'est moins sur des trajets de plus de 2 km, de la même façon pour ce qui concerne les piétons. Ce que nous visons, et vous voyez les flèches, c'est d'arriver en fait à gagner chaque fois vers le développement des modes qui sont couverts par les flèches, et en particulier pour les plus de 2 km, arriver à faire en sorte que le transport public gagne encore sur le véhicule particulier. Les 10 actions du plan piéton, après le diagnostic que nous avons fait, que je vous ai résumé, il y a 10 actions. Promouvoir la marche, accorder plus de place aux piétons, désamorcer les conflits piéton-vélo, parce qu'aujourd'hui que nous avons eu des zones piétonnes qui ont beaucoup de succès et le vélo qui a beaucoup de succès, on est obligé de faire des itinéraires vélo séparés de la circulation piétonne. On ne peut plus forcément toujours maintenir les piétons et les vélos ensemble. Mais bon, c'est pas grave, ça permet aux vélos de bien circuler et aux piétons d'être à l'aise. Mais de toute façon, ça veut dire qu'ils sont prioritaires pour l'usage de certaines voiries dont nous avons encore retiré la circulation automobile. Action 4, utiliser les documents d'urbanisme pour améliorer la perméabilité piétonne du territoire. L'action 5, instaurer le 1% piéton à l'occasion des projets de transport en commun ou du BHNS du tramway. généraliser la démarche de piédibus. La démarche de piédibus, c'est l'encouragement et l'apprentissage pour les scolaires d'être piétons dans toutes les écoles publiques primaires de Strasbourg, renforcer la perméabilité piétonne sur les axes qui sont des kilomètres heure, mieux traiter les carrefours pour le piéton, traiter et planifier les ouvrages d'art stratégiques du réseau piétonnier et créer un réseau piétonnier, l'action 10, magistral, qui relie les centralités des quartiers. Promouvoir la marche, c'est l'action 1, c'est l'organisation des actions événementielles et partenariales. On fait ça avec les écoles d'art, de promotion de la marche, et on communique sur les temps de déplacement à pied entre les principaux pôles de la ville. Alors ça, c'est... là, on a pris ces images, notamment à Ljubljana, mais on s'en est beaucoup inspiré. On a fait une espèce de marelle près d'une station. On voit des enfants, des adultes qui font le trajet en attendant que le tram arrive. Et donc, ce sont des événements éphémères, des marquages, pour rappeler que être piéton, c'est aussi pouvoir utiliser l'espace de manière agréable et de manière plus ludique. L'activation ludique, en fait, de l'espace public permet d'enrichir l'expérience du marcheur. Et ce que nous voulons, c'est aussi qu'il y ait une scansion de l'espace public qui rappelle la place du piéton de manière finalement non contraignante et non réglementaire. Ensuite, c'est toujours dans l'espace plus ludique, vous voyez, une place voiture ou 6 places vélo. Donc, on a voulu aussi rappeler que finalement, une place de véhicule en stationnement, ça prenait un espace qui pouvait être remplacé par les vélos. Est-ce que nous avons pour autant, comme on pose la question, marché-vélo, même combat ? C'est pas forcément toujours facile, mais il y a quand même une bonne articulation entre eux. Dans cette action 1, promouvoir la marche, la communication en temps piéton, c'est le jalonnement dans les différents itinéraires qui permettent de savoir combien de temps on met pour aller d'un point à un autre. Et c'est important parce que c'est incitatif. Souvent, les gens ne veulent pas marcher parce qu'ils se disent que c'est trop long. Et quand on a l'efficacité d'une information en temps piéton, lorsqu'on se déplace à 4 km/h, eh bien, on sait exactement combien de temps on met pour attraper son train lorsqu'on va à la gare, comment est-ce qu'on peut rejoindre un marché, par exemple, et on peut gagner aussi en efficacité temps dans l'usage de la marche. Dans la promotion de la marche, on a voulu revisiter les passages piétons en zone 30. Nous avons beaucoup développé les zones 30. Vous voyez dans la photo ovale, c'était l'état avant. Aujourd'hui, c'est l'état maintenant, avec un changement de revêtement, avec une symbolisation des semelles qui permet de rappeler que ici, à cet endroit, il y a un marcheur qui doit être respecté. Et le passage piéton reste tout de même un élément de sécurité et de confort majeur pour certaines catégories d'usagers, les personnes aveugles, les malvoyantes notamment, ou les personnes vulnérables. On a donc particulièrement travaillé sur ce qui était décelable par les chiens guides d'aveugles. Et nous avons constaté et vérifié avec d'autres villes qui ont partagé l'expérience que cette inscription sur l'espace public, zone 30, est non seulement vue par des malvoyants qui ont encore un petit peu de vue, mais un chien guide d'aveugle décèle et lit zone 30, et c'est par conséquent qu'il arrive sur un passage protégé. Dans la promotion de la marche, on a de la réglementation à l'usage. La démocratisation de l'espace public doit permettre aussi un usage apaisé. C'est notre petite ligne graphique avec des totems, des dépliants qui accompagnent la réalisation de nouvelles zones à circulation apaisée, zone 30, zone de rencontre, zone piétonne, comme ici la place centrale du marché d'un quartier de périphérie. Nous avons aussi installé des plans à destination des piétons sans nouveau mobilier, puisque le mobilier urbain est un obstacle dans la ville, et donc on a utilisé les abribus qui existent. pour introduire des plans piétons qui permettent précisément d'avoir les informations que j'évoquais précédemment, des supports cartographiques, l'aide à l'orientation et l'information temps. Et nous avons équipé déjà 5 sites en 2013, 53 sites supplémentaires sont en cours de réalisation. On a aussi une stratégie d'information multi-support. Nous avons élaboré donc une adaptation de nos données cartographiques du système d'information géographique de la collectivité qui nous permet d'avoir des pliants, panneaux numériques d'information, applications nomades. Nous sommes en France pas tout à fait les champions, mais pas loin, des services sur mobile. Et donc, nous avons également décidé de permettre aux piétons d'utiliser son téléphone portable pour savoir comment il se déplaçait, mais aussi s'il pouvait trouver une place de stationnement avant de devenir piéton. Et donc, on a un maillage extrêmement fin du territoire. Vous avez la carte qui vous représente ce maillage en bas à droite. Accorder dans l'action 2 plus de place aux piétons, dans la nouvelle charte de l'aménagement des espaces publics, on vise un minimum de 50% de l'espace rue pour les piétons. 50% de l'espace rue, c'est énorme. Je le dis parce que on n'est pas parti de là. Hein. Donc, c'est vraiment trottoir, aire piétonne, zone de rencontre, piste cyclable, voie verte. Le travail sur les espaces rattachés à la chaussée, bande cyclable, les stationnements. Et puis dans les espaces non comptabilisés dans le calcul, hors 50%, les couloirs bus et les plateformes tram. Ça veut dire qu'on récupère sur l'espace non plateforme tramway ou espace bus 50% pour les piétons. Ça, c'est l'égalité urbaine, mais il a fallu 20 ans pour y arriver. Mais je ne veux pas vous décourager. Accorder plus de place aux piétons, alors ça m'a fait penser à la rue ici. Comment elle s'appelle, Prince Arthur? Non. C'est ça, hein? Alors celle-là, eh ben, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'il n'y a plus de commerce, plus exactement, il n'y a que les mêmes commerces. Et c'est étrange, elle part d'un parc, mais on ne sait pas où elle arrive. Elle part du parc Saint-Louis et elle arrive, je ne sais pas. Et donc, il y a un problème d'usage de cet espace qui, en plus, est interdit en soirée, en fin d'après-midi et la nuit. Donc, un piéton tout seul qui se promène là, bah, franchement, c'est pas terrible. Alors, j'ai regardé aussi un bout de piétonisation de la rue Sainte-Catherine. Alors, la rue Sainte-Catherine, c'est aussi c'est une piétonisation qui a coûté très cher. Ça, je vois au mètre linéaire le coût que ça a représenté, avec du pavé, tout ça, je connais ça. Sauf que vous avez gardé du stationnement des deux côtés. Donc finalement, dans le partage de l'espace, eh ben, la rue est restée la rue. Donc ce matin, je suis resté sur place pendant un moment. J'ai vu que deux véhicules côte à côte circulent dans cet espace-là. Mais que, et donc la piétonisation est temporaire finalement. Hein, ce n'est pas un usage permanent, c'est un usage temporaire et qui est récupéré d'abord par le véhicule particulier. Et j'ai observé un cycliste qui, lui, si vous voyez cet aménagement sur la photo, il y a des obstacles qui permettent en fait de regagner sur l'espace, comme d'ailleurs dans cette rue Sainte-Catherine, sauf que le cycliste, il arrive tout droit sur cet espace-là, et puis après, il est obligé de circuler entre les deux voies, entre les deux les véhicules qui circulent côte à côte. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire, parce qu'on n'y est pas encore. Pour tout vous dire, j'ai recommencé une rue comme ça à un moment donné parce que les piétons ne pouvaient pas y circuler en sécurité et ne pouvaient pas s'approprier l'espace. Donc le problème, c'est l'appropriation par les usagers de l'espace et de façon pérenne, ce que vous pouvez évidemment dans une piétonisation. Le reste est un aménagement de zones de rencontre qui est un peu intermédiaire et qui nous permet en fait d'avoir des zones test qui sont des zones d'usage que nous observons et qui nous permettent de faire un peu une recherche-action. Mais vous avez en bas, dans une installation pérenne, une véritable piétonisation. Vous avez aussi la piétonisation des places fédératrices. Donc, vous avez vu tout à l'heure la place de la cathédrale. Vous l'avez en bas de ce slide. C'est un endroit qui est aujourd'hui complètement utilisé par les piétons, avec bonheur, c'est incroyable. Cette place, elle a attiré immédiatement, dès qu'elle a été ouverte, les gens y sont venus. Vous avez en haut une place, alors elle a été photographiée à un moment où il y a moins de monde, mais c'est aussi une place qui était un parking, de la même manière que la place de la cathédrale, sur le côté de la cathédrale, était la place du château, était un parking. Vous avez là vous voyez des structures sculptées en grès, qui sont l'histoire de la démonstration du travail de la sculpture sur grès, qui permet de restaurer la cathédrale. Alors, il y a les coûts. J'ai voulu vous indiquer ce que représentait le coût d'aménagement urbain dans le cadre de cette politique. La place en haut, c'est un coût de 2 millions d'euros. La place en bas, 2,6 millions d'euros hors taxes. Et je peux vous dire que sur la place en bas, il y avait des arbres. Et on a retiré les arbres parce que c'est un espace classé patrimoine mondial et qu'à cet endroit, il ne doit pas y avoir d'arbres. Mais vous imaginez, dans la concertation, ce que ça a pu être d'enlever ces arbres. Mais ça a été possible. Action 3, je vais aller plus vite. Désamorcer le conflit piéton-vélo. Donc là, dans cette charte d'aménagement des espaces publics en lien avec le code de la rue, nous réservons les pistes, les bandes cyclables aux axes sur les axes à 50 km/h. Dans les zones 30, on replace le cycliste sur la chaussée. Dans les aires piétonnes, on tolère le vélo, en cas général, en principe. Mais c'est ce que je vous disais, on tolère aussi des solutions alternatives. Et vous avez en fait un schéma qui montre les conditions empiriques d'ouverture des zones piétonnes au vélo aux Pays-Bas, qui a été une expérience sur laquelle nous avons beaucoup travaillé parce que les Pays-Bas sont très en avance sur nous. Action 3, désamorcer les conflits piétons-vélo. Et donc, on a aujourd'hui une stratégie de régulation du vélo sur le plateau piétonnier. Parce que sur les plateaux piétonniers, là, ça devient dangereux et on a eu des accidents, enfin des collisions entre piétons et cyclistes. Donc on a décidé de faire un stationnement vélo massifié pour faire en sorte que les cyclistes deviennent aussi piétons. Bon, on conforte les itinéraires vélo de contournement de ces plateaux piétonniers et dans certains cas, on interdit la circulation ou on met des panneaux pour leur demander de circuler au pas. Mais c'est compliqué parce que les cyclistes aussi ont pris goût à la liberté. Surtout qu'à Strasbourg, on a fait du contresens cycliste sur les voiries. Enfin, bon, au feu, le cycliste peut démarrer avant les véhicules. Donc il y a un sentiment de priorité qui est effectif, mais qui parfois est dommageable lorsqu'il y a conflit entre piétons et cyclistes. Donc une étude en amont pour caractériser les interactions entre piétons et cyclistes avant de déterminer nos choix. Les questions de l'étude, ça peut être intéressant, disons, à évoquer dans la phase dans laquelle vous êtes ici à Montréal. Quel est le degré d'interaction actuel entre piétons et vélos? Est-ce qu'il existe un seuil de bonne cohabitation des piétons et des vélos? Quels aménagements adopter en fonction des configurations? Et la méthodologie de l'étude, c'est l'analyse du corpus réglementaire et des règles de l'art dans les différents pays européens. L'analyse comportementale qui a été filmé sur les plateaux piétonniers de Strasbourg, mais je vous assure, en respectant les données personnelles, et la formulation d'un premier jet de recommandation. On a également fait une étude complémentaire sur le stationnement des vélos dans la Grande Île, donc cette partie patrimoine mondial, avec, si possible, la réalisation d'infrastructures, qui sont des infrastructures plus réduites, évidemment, que des infrastructures pour le stationnement automobile, mais qui permettent aussi de garer son vélo en sécurité et de l'avoir toujours à disposition. Et donc, on va pouvoir mettre ça en œuvre, ce qui va représenter là aussi une dépense. Mais si on veut que ça marche, il faut aussi mettre un peu d'argent, et c'est toujours beaucoup moins que les autres dépenses que nous avons pu faire, soit pour la construction du tram, soit pour les aménagements de voirie. Donc, les principales actions, le schéma cohérent de stationnement multimodal, voiture et vélo. Aujourd'hui, quand on crée des espaces de stationnement pour la voiture, on met automatiquement des vélos. Des plans d'aménagement de 10 parkings vélos massifiés, d'environ 50 places. Un cahier des charges fonctionnelles et architecturales pour la création et le renforcement de stationnements de vélos en ouvrage. Ça peut être le cas dans les écoquartiers, par exemple. On a au parking des Tanneurs 460 places pour 380 kilo-euros hors taxes de dépenses. Action 4, utiliser les documents d'urbanisme pour améliorer la perméabilité piétonne du territoire. Donc, dans le plan local urbain, suppression pour les piétons des voies en impasse, inscription d'emplacements réservés pour la réalisation de cheminements manquants et dans les zones d'aménagement concertées, intégration au bilan financier de la réalisation d'éventuels franchissements. C'est souvent des choses qu'on oublie dans les plans d'aménagement et qui sont quand même très importants à intégrer, même si c'est des dépenses qui apparaissent comme marginales. Utiliser les documents d'urbanisme pour améliorer la perméabilité piétonne du territoire. Là, on a décidé, avec notre nouveau plan local urbain, de travailler de manière fine. Vous avez là sur le plan un exemple pour avoir une trame piétonne qui soit une trame continue qui traite l'intégralité de l'espace. Nous avons fait une étude en 2012-2013 qui a permis d'identifier à l'échelle de Strasbourg puis de la communauté urbaine les principes des liaisons complémentaires et qui préfigurent l'inscription d'emplacements réservés, juridiquement contraignants ou de simples tracés de principes qui doivent guider les projets des aménageurs. Le 1% piéton, action 5 à l'occasion des projets de transport en site propre, 1% du budget des grands projets de transport collectif pour l'amélioration de la desserte piétonne dans un périmètre d'intervention élargi de 500 mètres autour des stations. 1%, ça paraît rien, mais vu le prix qu'on dépense pour un kilomètre de tram, c'est pas mal. Action 5, instaurer le 1% piéton, donc c'est ce qu'on évoquait, mais on le développe. L'action réalisée, c'est à l'occasion donc des extensions, là vous avez une représentation de ce que représentent ces fameux 500 mètres. Alors, qu'est-ce que ça donne financièrement? Sur un budget de travaux de 55 millions d'euros, 3,8 millions d'euros, soit 7% ont été fléchés en faveur des piétons. C'est-à-dire quand on réclame 1% piéton, ça peut être évidemment beaucoup plus, puisque dans le cadre de la requalification urbaine que nous poursuivons, la requalification pour les piétons est une requalification de qualité. Et du coup, comme on a inscrit ce 1%, c'est beaucoup plus facile de dépenser plus. Toujours dans l'action 5, instaurer le fameux 1%, on a fait un petit pousset, c'est-à-dire un parcours lumineux le long du BHNS, le long du bus à haut niveau de service, pour s'amuser un peu et rappeler qu'on peut être aussi piéton la nuit. Et vous avez donc ce jeu de lumière et de couleurs qui rend, au fond, avec ces petits cailloux métaphoriques, un passage qui est tout à fait ludique et intéressant. Et là, bon, vous avez la configuration. Alors, c'est typiquement cette requalification dont je parlais, avec ces points rouges, le parcours par le menu. Il faut bien dire aussi que cet aménagement a été particulièrement respecté. Et ça, c'est une chose que je voudrais rajouter. C'est que dans le cadre des aménagements du tram, pratiquement tous nos aménagements ont été respectés. Et ça, pour moi, c'est un élément d'appropriation et un élément de succès. On a très peu de vandalisme. L'action 6, généraliser la démarche de piédibus dans les écoles. Donc ça, c'est évidemment, il y a un travail d'accès près des écoles, études de cadrage, assistance matérielle, animation, coordination de la démarche. On généralise la démarche de pédibus dans les écoles publiques primaires, ce qui nous permet de travailler à la conscience des automobilistes qui doivent respecter la proximité des écoles, mais ça permet aussi aux élèves d'apprendre à gérer leur circuit piéton et de savoir passer là où il faut. Et on a identifié donc toute une série d'ingrédients, comme on les appelle, pour une stratégie efficace de promotion de l'écomobilité scolaire, parce qu'on pense, et on peut le montrer, quand on commence tôt, on finit par avoir des gens qui choisissent beaucoup plus facilement de ne pas utiliser la voiture, de marcher, d'utiliser le vélo et le transport public. Ça passionne aussi les enseignants, et ça c'est très sympa, et les parents. Action 7, renforcer la perméabilité piétonne des axes 50. Vous avez là un plan qui vous donne cette configuration, donc dans le cadre de déploiement des zones 30. On a une délimitation de ces zones et on matérialise les passages piétons avec un intervalle idéal de 100 mètres environ. Et on fait un effort particulier pour la sécurité et l'accessibilité des passages piétons les plus stratégiques, évidemment. En ce qui concerne cette priorité, vous avez là un autre plan sur un axe qui permet en fait d'introduire des séquences de circulation, mais qui permet tous ces itinéraires traversants dont je vous disais que c'était un élément qui, dès le départ, avait été pour moi complètement déterminant dans l'analyse de la mobilité urbaine piétonne. Les carrefours pour le piéton, c'est l'action 8. Ça, franchement, c'est un vrai sujet. Et ici, je trouve que la matérialisation des traversées piétonnes, elle laisse à désirer. Je suis là pour vous dire aussi un peu comment je réagis à ce que je vois et ce que je vis en traversant ici. Bah, il y a les feux, tout ça, mais ça serait bien d'avoir un peu de matérialisation, même s'il y a de la neige aussi en hiver. C'est l'amélioration du franchissement en jouant sur l'adaptation de la régulation des feux, mais aussi des traitements innovants pour les zones de rencontre, les feux avec des phases spécifiques piétonnes traversées en diagonale. Alors, traverser en diagonale, c'est quelque chose qu'on essaye maintenant, qui marche pas mal du tout. C'est qu'au lieu de traverser comme ça et de faire tout le tour du carrefour, bon, vous prenez le carrefour en biais. Et ça, franchement, ça occupe l'espace, parce que du coup, vous interrompez réellement la circulation automobile. Et le réseau piéton magistral, c'est l'occasion de repenser certains carrefours en visant davantage de fluidité piétonne. Action 9, je vais en avoir terminé. Traiter et planifier les ouvrages d'art stratégiques du réseau piétonnier. Donc on a fait un travail pour traiter les coupures liées au franchissement des cours d'eau, des infrastructures lourdes. Alors évidemment, ça c'est un élément de débat dans les conseils de quartier. Faut-il dépenser pour une passerelle piétonne ? Faut-il dépenser pour une passerelle piétonne ? Ben souvent la réponse c'est non. Mais quand la passerelle est là, tout le monde est d'accord. Et donc, c'est toujours comme ça. Pareil pour les passerelles cyclistes. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens l'acceptent lorsqu'ils sont imprégnés de la notion d'itinéraire piéton et que le temps de déplacement et leur circuit de déplacement, du coup, devient concret, pratique et leur permet de mesurer l'importance d'une passerelle en gain de temps, en confort et en sécurité. Et donc, ça permet aussi de travailler sur les paysages. Et donc, par exemple, là, je vous montre un endroit où, face à l'hôpital, on a créé une passerelle piétonne. Ça marche super bien. Il y a même un gars qui s'est installé pour vendre des super sandwichs et des pizzas. Action 9, traiter et planifier les ouvrages d'art stratégiques du réseau piétonnier toujours. Là, c'est la passerelle qui va passer par-dessus un bassin du port. Passerelle de tram qui va vers la ville voisine de Kehl. C'est un franchissement de tram qui va permettre de lier les anciennes parties portuaires avec les quartiers de réhabilitation et les écoquartiers de Strasbourg. Et donc, vous voyez, ça va être un ouvrage particulièrement remarquable puisqu'il doit être suffisamment haut pour laisser passer les bateaux dessous. Action 10, créer un réseau piétonnier magistral qui relie les centralités de quartier. C'est un réseau vitrine. C'est un axe qui permet en fait aux gens de vivre l'expérience piétonne complète. C'est un support de communication en faveur de la marche à pied, inscrit dans l'espace urbain. C'est un réseau de référence qui décline tous les aménagements de cette charte. Et nous avons un itinéraire test qui est en finalisation, qui relie la gare centrale et une place centrale d'un premier quartier périphérique. Cet axe magistral, vous le voyez ici, le démarrage là, près de la place du marché. Et là, l'état d'avancement général du réseau magistral, ben, vous voyez en fait qu'on va travailler comme pour les réseaux cyclables ou comme pour le réseau de transport public. C'est un véritable réseau continu que nous faisons et non pas des morceaux d'axes. Il faut que la continuité piétonne, comme la continuité cycliste, comme la continuité du transport public, se fasse le plus aisément et le plus évidemment possible dans la reconquête de l'espace urbain. Ce qui veut dire que si on prend par exemple l'axe tram du Heyritz à Kehl, on a 3 à 5 mètres pour les modes actifs, de nouveaux franchissements en faveur des piétons. Ça vous donne un peu une idée de la manière dont on va organiser à la fois la largeur, mais en même temps aussi les franchissements. Le bilan, le plan piéton se fixait comme objectif de rompre avec les politiques sectorielles pour avoir une politique intégrée en faveur de la marche. Ce qu'on peut en retirer, C'est le nombre et la diversité des actions qui ont permis de déterminer et d'engager une approche globale qui est aujourd'hui à l'œuvre. C'est beaucoup plus difficile parce que ça n'occupe pas physiquement le même espace dans la ville que ce qu'on a fait à propos du tram. Donc c'est un peu plus ingrat comme travail et c'est pourtant fondamental. L'essentiel de l'action est de ce point de vue visible au moment plutôt où on a terminé et que les gens utilisent ces axes, mais en même temps, pour nous, c'est un vrai enjeu démocratique parce que c'est une façon de démocratiser le réflexe piéton, la culture de la marche urbaine auprès des décideurs, des services, des aménageurs et du grand public. C'est en fait ce défi qu'on a voulu relever d'une pédagogie militante que ce plan piéton a mis au cœur de la stratégie de déplacement urbain, en proposant un langage, un cap commun, en mobilisant les élus autour d'une délibération qui a eu une valeur constituante, qui engage tout le monde, mais en assumant aussi de manière volontariste l'importance des différentes actions et en faisant appel à la créativité et au sens de l'organisation, et je l'ajoute aussi à une certaine civilité. La ville est aussi un lieu d'exercice de la civilité. La méthode est-elle bonne? C'est une question. On peut dire que l'ultime juge de paix est devant nous, ce sont les prochaines enquêtes qui le montreront, ou bien on assiste à la renaissance et au développement de la marche à Strasbourg, ou bien on n'y assistera pas. Et la question que nous posons, est-ce que la marche pourrait redevenir un synonyme de plaisir? C'est ce que nous espérons, mais là on est encore dans le domaine de l'espoir, et je termine sur cette citation. Le piéton est la parole silencieuse du citoyen. Il dit en permanence l'état de la cité, tout va bien et il va de ci, de là. Vaque à ses occupations, tout va mal et il se rassemble, marche pour manifester. Le seul qui puisse prétendre à être le véritable automobile, c'est le piéton. Merci de votre attention.
Alors, merci beaucoup, Madame Trottmann. Vous avez, avec fougue et patience, communiqué les résultats de ce que vous avez vécu et de ce dont vous êtes fière à Strasbourg. Il y a des micros des deux côtés de la salle. Vous vous nommez et vous posez des questions courtes. Je vais commencer peut-être. Quand vous avez démarré, que vous avez été élue, vous avez démarré avec un projet global pour la ville. Vous n'avez pas démarré avec simplement un projet de mode. Comment vous avez fait pour passer à travers les critiques et les objections de tout le monde, puis faire en sorte que vous convainquiez parce que c'est à ça qu'on s'attaque, hein, quand on fait de la stratégie de changement, là, le premier lieu de résistance, c'est tout le monde est contre. Comment vous avez fait pour réussir? Si vous aviez à refaire, le referiez-vous pareil?
Alors, il y a une thèse qui a été faite par un universitaire qui a démontré deux choses. Le paradoxe de cette réalisation, c'est qu'en fait, ce plan a été décidé et présenté aux élections municipales, et je n'en ai pas dévié. Mais en même temps, cette décision a été le support d'une intense concertation, 500 réunions rien que pour la première ligne de tram, des réunions en pied d'immeuble où on a décidé qu'on allait traiter chaque opposant, si je puis dire. Et donc ça a été un moment assez dur. Mais je vous dirais que le pire, ça a été quand il a fallu abattre les marronniers, quand je disais que j'étais présenté comme Terminator avec une tronçonneuse. Parce que là, on a atteint le comble avec des espèces de crises d'hystérie. Et je ne pensais pas que des citoyens raisonnables puissent tourner à la crise d'hystérie collective. Et pourtant, c'est ce que j'ai vécu. Et là, je dois dire, le préfet paniquait, mes collaborateurs paniquaient, les élus paniquaient. Et j'ai réfléchi parce qu'il fallait que je m'en sorte. Donc j'ai passé 2 heures dans mon bureau enfermé et j'ai trouvé la solution. Et la solution, vous allez voir. Je ne savais pas comment j'allais la trouver, mais j'avais lu Lacan. Et il y a un passage de Lacan où il parle du père sévère. Et moi, j'étais maire, et j'étais maire compliquée, parce que les gens m'avaient perçu comme quelqu'un de plutôt gentil, plutôt pas violent, plutôt conciliante, et là, patatras, je m'occupais d'un engin qui était masculin, un train. Comment une femme peut s'intéresser à des trains, déjà? Bon, d'ailleurs, les messieurs disaient, en fait, elle n'y comprend rien, donc elle ne va jamais y arriver. On a eu tort de les dire, elle ne s'en sortira pas. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai passé de l'image, parce qu'en plus, la CTS, la compagnie de transport, pour annoncer l'abattage des 35 marronniers, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend une superbe photo de ma bobine qu'elle met sur le dessus du prospectus. Mais les gens, ils n'ont pas ouvert le prospectus. Ils ont mis le prospectus sur la télé et moi, je faisais les dédicaces. Et dedans, on expliquait ce qu'on allait faire et le chantier. Et donc, ils n'ont pas ouvert. Et je leur ai dit, mais vous êtes fous. Vous êtes en train de faire, vous savez, dans les marchés, les foires foraines, quand vous avez ces visages-là, ces têtes, et vous balancez les balles sur la tête des visages que vous avez en face. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'était finalement désigner la coupable et me jeter en pâture à la vindicte publique. Donc, c'était, comme je vous l'ai dit, violent. Et j'ai donc décidé d'être père sévère et non plus mère conciliante. Et donc, je me suis fâchée à la télé. J'ai dit, quand même, il fallait que vous sachiez ce que vous faisiez quand vous avez voté. Si vous avez voté pour moi et vous saviez pourquoi, je voulais réaliser un drame, je continue, je perds sévère. Et j'ai persévéré, sérieusement. Mais, lorsqu'il a été terminé, parce que j'avais toujours travaillé sur ces auteurs remarquables, vous savez, en psychologie, il y a l'objet transitionnel entre la mère et l'enfant. Eh bien, le tram, ça a été l'objet transitionnel. Et donc, j'ai proposé, personne ne comprenait pourquoi. On disait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour l'inauguration. J'ai dit, écoutez, c'est très simple. D'abord, on va dire merci pour votre patience pendant les chantiers. Ça, c'était fait, il fallait le faire. Et deuxièmement, on dit juste une chose. Maintenant, il est à vous. Et on a fait une opération de gratuité. Et là, ça a été terrible parce que les gens ne voulaient plus sortir du tram. Et donc, il fallait que les suivants, Manu Militari, tirent les gens pour arriver à se faire une place dedans. Et donc, pour moi, ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et je pense qu'on avait atteint, avec ce tramway, ce qui arrive rarement dans une expérience politique. C'était devenu un objet de discussion, de conversation dans tous les milieux, tout le monde en parlait. C'était devenu vraiment un enjeu démocratique, c'était devenu quelque chose qu'on aimait, quelque chose qu'on n'aimait pas, mais quelque chose qui obligeait de réagir. On faisait des travaux énormes de requalification de l'habitat. Personne n'en parlait. C'était quand même énorme, ça coûtait à peu près la même chose. Ben non. Mais le drame, c'était, au fond, cet enjeu-là. Et donc, c'est devenu, pour les Strasbourgeois, un élément de fierté, un élément, je crois qu'ils sont fiers de ce qui a été fait. Et même l'opposition, lorsqu'ils ont été élus pendant un mandat, mais ils ont été battus après, c'est normal, parce qu'ils n'avaient pas choisi de faire le tram là où on l'avait prévu. Ils ont fait un tram qui passait à côté de l'axe principal d'un quartier. Et finalement, les gens ont dit, bah non, c'est pas, on veut le tram, mais c'est pas cette manière de faire qu'on veut. Et donc, j'ai gagné les élections pas par défaut, mais dans un combat difficile. On les a regagnés aussi en allant clairement prendre le risque aussi de l'aménagement urbain et de l'expérience des gens. Et je pense qu'on ne peut pas gagner ce genre de défi si on ne prend pas de risque. Et au fond, quand je me suis présentée, j'ai pensé qu'on avait 20 ans devant nous avant d'être élu. Et en fait, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, qu'on est élu et on a la possibilité de voir que ce qu'on avait prévu il y a plus de 20 ans, on est en train de finir de le réaliser. Et ça sera temps d'avoir d'autres équipes qui puissent prendre le relais pour penser les 20 à 30 ans qui viennent. Mais ce qui est frappant dans la ville aujourd'hui, et ça vraiment pour moi, c'est une expérience extraordinaire, c'est que les gens lisent la ville avec la vision que j'en avais au début et qui était difficile à expliquer. Aujourd'hui, elle est validée. Et c'est l'usage et c'est la manière dont les gens le vivent qui finalement est le meilleur des avis et pour moi, en tout cas, la meilleure des récompenses politiques.
Merci.
Oui.
Bonjour, Florence Poliac, je suis professeure à l'UQAM en études urbaines. Merci beaucoup pour votre présentation et pour avoir relaté cette expérience de Strasbourg en montrant que le transport, c'est un enjeu politique au sens noble du terme et c'est une histoire de leader et de leadership politique. Si je dis ça, c'est parce que cet ingrédient-là est un ingrédient qu'on ne retrouve pas partout dans toutes les grandes villes, ce leadership et cette vision autour des questions de transport et de transport et d'aménagement urbain. Donc je pense que votre expérience de ce point de vue fait une démonstration tout à fait intéressante et extrêmement enrichissante. Strasbourg, c'est une ville anticipatrice du point de vue des transports. Vous l'avez très bien expliqué en montrant que vous avez anticipé avant même que les outils légaux n'existent, avant même que la loi impose ensuite à d'autres villes d'essayer de tenter de faire la même chose. Donc, et l'anticipation est restée jusqu'à aujourd'hui avec la politique dédiée aux piétons. Cependant, j'aimerais vous entendre, peut-être pour éclairer le débat montréalais, peut-être vous entendre préciser deux choses sur des outils qui existent, que vous avez l'un évoqué, le plan de déplacement urbain, qui est quand même une merveilleuse occasion de coordonner des acteurs qui gèrent des réseaux différents à une échelle pertinente. Et ça aussi, c'est un outil qui, dans le cas français, est beaucoup utilisé et a fait sa démonstration de certaines de ses faiblesses, mais aussi et surtout de beaucoup de vertus en termes de prise de décision. Et la taxe versement transport, qui est non négligeable dans l'histoire du développement du tramway. Merci beaucoup.
Oui, alors on a cette particularité que pour les entreprises de plus de 10 salariés, il existe une taxe qui permet de financer, qui est dédiée en fait à l'amélioration d'un réseau de transport public. Cette taxe a existé parce que pendant longtemps, les entreprises, les usines organisaient le transport des salariés par bus. Et en fait, elles ne l'ont plus fait. Et donc, du coup, on avait estimé à l'époque qu'on pouvait récupérer une partie de la dépense de ces entreprises, qui étaient des entreprises avec des salariés nombreux. Aujourd'hui, on discute, hein, parce qu'une entreprise de plus de 10 salariés, ça pèse quand même. Il y a quand même une réaction antifiscale aujourd'hui, et surtout en période de crise. Donc, ce versement transport n'est pas forcément très populaire. Mais je dois dire qu'à Strasbourg, comme nous avons montré et pu desservir aussi ces zones d'activité, il n'y a pas de mise en question du versement transport. Les entreprises savent ce qu'on a fait de leur argent, savent que leurs salariés peuvent l'utiliser, et nous avons une expérience qui est tout à fait performante et très intéressante, passionnante, qui sont dans deux quartiers très différents, un sur le port autonome de Strasbourg, donc en milieu industriel et portuaire, et l'autre dans un quartier où on a des banques et des assurances, mais aussi de l'habitat, on a deux démarches de plans de déplacement inter-entreprises. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'entre des entreprises différentes, tertiaires dans un cas, industrielles dans l'autre, on peut mutualiser et travailler sur le déplacement. Dans le port, ils ont demandé une piste cyclable et ils organisent du covoiturage ensemble. Et ils ont décidé de mettre dans chaque entreprise un correspondant de transport qui permet d'expliquer aux salariés comment ils peuvent faire et de traiter les problèmes que rencontrent les gens. Parce que c'est une dépense, c'est du temps. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que depuis qu'ils sont rentrés dans la démarche, les entreprises industrielles qui travaillent en 3x8 sont redevenues attractives pour l'embauche. Donc on a un bénéfice social de ce genre de démarche. Ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau des banques et des assurances. Là, la tension était très très forte. Les gens s'exprimaient aussi peut-être différemment. Mais on commence à avoir le même type de résultats. Hein. Donc c'est au fond, ces deux exemples montrent que même si on a eu du succès, même si les gens sont convaincus, il reste des bouchons. Il reste des problèmes de stationnement, il reste des problèmes de dangerosité pour la circulation piétonne ou cycliste. Et en fait, ce que je veux dire, c'est comme Pénélope. On reprend la tapisserie en permanence. Il faut sans arrêt, en fonction des usages, reprendre les choses. Donc nous avons au fond une démarche qui, au-delà de la réglementation, permet de nous adapter en permanence et de faire que la mobilité, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, que la mobilité soit aussi un enjeu de savoir collectif et de pratique collective. C'est-à-dire que la participation des gens, que ce soit dans le cas des entreprises avec leurs salariés, que ce soit des citoyens dans les associations qui traitent de l'usage de la ville, des consommateurs, des cyclistes, où moi je me suis beaucoup appuyée sur ces associations-là. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. C'est nous qui avons créé, ceux qui nous critiquent d'ailleurs, avons incité à ce qu'il y ait des associations d'usagers du transport public, parce qu'il faut qu'il y ait des instances neutres, comme le Conseil régional du développement durable ici, qui permet de dire, bah, là, il faudrait aller dans ce sens-là, là, dans ce sens-là, non, là, ça ne va pas, et qui sont à l'interface des citoyens. Et donc, ça reste un enjeu, la mobilité reste un enjeu partagé de citoyenneté.
Merci.
Éric Weiss-Altaner, aussi du département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. L'an passé,
Oui.
a exprimé sa pour des systèmes d'autobus en site propre plutôt que le métro. Alors pour des raisons, est-ce que
ça marche pas très bien?
Parle plus près.
Un système d'autobus a été considéré à Strasbourg et si oui, pourquoi avez-vous choisi le tram? C'est une question qui nous concerne ici à Montréal, c'est un débat.
Alors, on a choisi le tram là où les bus ne permettaient absolument pas de répondre. Dans les lignes que vous avez vues, nous sommes dans de la densité urbaine. Plus on va loin, plus on dessert des quartiers qui sont moins denses, où il y a moins de voyageurs, mais on était dans le centre-ville sur des réponses de type métro. Donc en fait, on a conçu le tram comme un métro de surface, c'est-à-dire avec des grandes rames, avec une cadence qui a même atteint 2 minutes, mais on ne peut plus tenir à 2 minutes, parce qu'avec les faits réseaux et les croisements, on a forcément une petite dégradation de temps, mais on a plus de distance, donc on y gagne de toute manière. On est à 4 minutes, on est revenu à 4 minutes qui est la vitesse de croisière, mais 4 minutes en fréquence c'est quand même pas mal, et donc on arrive à tenir de cette façon. Et donc on a choisi le mode tramway parce qu'on avait d'abord à créer cette infrastructure solide. On a gardé des bus comme voie de rabattement ou voie de ceinture. Donc on a encore des bus classiques, des bus à gaz, et on a le bus à haut niveau de service. Là, par exemple, le bus à haut niveau de service, il est complémentaire au tram, et il permet d'aller jusqu'à une zone d'activité tertiaire où on a 6000 emplois. Donc voilà, là on a choisi un autre système qui marche très très bien. C'est là où il y avait le petit poucet là, avec les images de luminosité, parce qu'on souhaite que ce ne soit pas un itinéraire qui ne fonctionne que aux heures de bureau, mais qu'il y ait aussi un certain intérêt à utiliser, y compris l'espace de voirie et les aménagements en soirée et une partie de la nuit. Voilà, donc c'est en fait... On pourra peut-être faire du tram à pneus, on en fabrique, il y a une entreprise qui en fabrique, qui fabrique des trams à pneus dans la région. On a beaucoup travaillé avec eux pour développer ce système qui était inspiré de la Michelin, et c'est avec l'entreprise Michelin que cette expérience a été faite. Donc nous, on n'est pas des obsédés du tramway, mais c'est sûr que le tramway nous a permis la cadence, la réponse de type métro et la facilité d'usage, puisqu'on peut rentrer dans le tram avec son vélo lorsqu'on n'est pas aux heures de pointe où ça gênerait parce que ça prendrait trop d'espace et ça serait dangereux. Donc finalement, on a aussi facilité l'usage du vélo grâce au tram, ce qu'on ne peut pas faire dans un bus. Et dans un bus, même si le bus à haut niveau de service est assez bas et qu'on peut y rentrer relativement facilement, on n'a pas tout à fait la même accessibilité handicapée. Et pour ma part, tout le travail sur la réalisation, on est parti sur un schéma complètement innovant de trams qui n'étaient pas formés de wagons mais de modules. Et on pouvait, parce qu'on ne savait pas si on allait avoir besoin de rames très grandes ou moyennes, et donc on a prévu des quais pour des grandes rames, et finalement aujourd'hui on a des grandes rames. Et donc on pouvait rajouter des modules, c'est comme un Lego, on pouvait rajouter des pièces. Et maintenant tout le monde fait ça, c'est-à-dire que c'est un grand couloir ouvert qui permet d'aller du nez du tram jusqu'à la queue. Sans problème, vous déambulez là-dedans, vous rentrez avec votre chaise roulante. J'ai utilisé, si je puis dire, enfin j'ai fait appel à la compétence et à la participation de malvoyants, de collègues en chaise roulante, des associations de personnes handicapées qui ont énormément fait pour, je dirais, toute la génération de trams contemporains. Parce que c'est vraiment les essais qu'on a fait avec eux et en imposant aux ingénieurs. Parce qu'il a fallu l'imposer aux ingénieurs. Il a fallu leur imposer un paysagiste, parce qu'ils disaient, ça ne sert à rien, eux, ils ne savent pas comment on organise un carrefour, de quel rayon on a besoin pour faire tourner un tramway. Et ben, je suis désolé, le paysagiste nous a complètement aidés à architecturer le réseau tel qu'il est aujourd'hui et qui a été imité partout. Bon, moi, je me suis un peu inspiré pour l'herbe de ce que j'avais vu en bout de ligne à Fribourg, parce que les herbes folles avaient repris leur vie entre les rails du tram. Et j'en ai fait un motto, enfin, c'est un motif parce qu'on avait un quartier, le quartier de Haute-Pierre, où il n'y avait pas de trottoir d'ailleurs, où c'était un quartier utopique, où on avait mis des bâtiments et on pensait que l'intérieur, c'est comme des mailles d'un rayon d'abeilles. Et en fait, d'abeilles, les gens sont dans les immeubles, les voitures ont pris la place des endroits qui devaient être réservés à la convivialité, aux espaces sociaux, à l'extérieur, bah, ça devenait très compliqué de circuler. Mais c'est quasiment dans un parc, si vous voulez. Et donc, on a mis de l'herbe dans les trams, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de tondeuse pour passer entre les rails de tram. Donc, il a fallu inventer une tondeuse pour pouvoir couper l'herbe. Donc, bon, ça a été une aventure tout le temps, ce tramway. Mais on s'est bien amusé, en fait.
Merci. Oui.
Oui, bonjour. Oui, Daniel Lambert. Je crois que depuis 2010, vous avez un système de vélo en libre service. Est-ce que vous êtes satisfait avec des résultats depuis 4 ans? C'était une bonne décision?
On a mis en place un système, on s'était inspiré là aussi de ce qui avait été réalisé à La Rochelle, qui a été la première ville en France à avoir un système de location de vélo, qui était en fait au départ destiné aux touristes, puis c'est devenu un usage des habitants. Et on a choisi de faire travailler des gens en insertion dans cette pratique. Et donc c'était une entreprise d'insertion qui l'a fait. Et on a continué avec un système qui, en même temps, est soutenu par la compagnie de transport et qui est... alors, c'est vraiment... On est très, très satisfait. Oui. Très, très satisfait. À la fois, on a des points de location à différents endroits de la ville. Donc, en fait, c'est très commode. On s'est rendu compte qu'il y avait des commerçants qui vendent et qui louent des vélos qui s'étaient également développés. Donc, on a une offre publique, une offre privée, qui fonctionne très très bien, et beaucoup de Strasbourgeois choisissent la location qui n'est pas chère du tout de vélos, parce qu'on les voit, ils sont verts, ils sont très visibles, ils ont été dessinés pour la ville, et donc c'est un peu compliqué de les voler. Donc on a aussi un instrument dissuasif du vol avec ces vélos. Et on pense que la location de vélos a été un élément moteur du développement de l'usage du vélo en ville, oui. Absolument. Mais ça, on a commencé il y a longtemps. Mais on n'a pas le système qu'on a, par exemple, à Lyon ou à Paris, de location enfin, vous voyez, les vélos accrochés. On va chercher son vélo dans un point vélo, et le vélo est entretenu. On rencontre des gens. C'est pas mécanique. C'est le vélo. C'est pour nous aussi un contact dans la ville. Il y a une maison du vélo. Il y a des gens qui sont cyclistes qui peuvent venir à la maison du vélo. Il y a des associations qui sont là. Et on leur dit quels sont les itinéraires, on les renseigne, comment réparer son vélo. Il y a des formations, il y a des bourses au vélo pour les étudiants, il y a plein de choses. Et puis on ramasse beaucoup d'épaves, et il y a des associations qui les retapent. Et il y a même des vélos en libre accès au Parlement européen, et donc on a mis des parlementaires sur les vélos.
Merci.
Merci. Oui.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Serge Laplanche, professionnellement je suis retraité et puis au point de vue de mes déplacements je suis cycliste actif. Donc par définition les tramways utilisent des axes routiers, enfin la circulation automobile à très gros débit puisque c'est pour s'y substituer. Et j'ai observé dans certaines villes françaises telles que Orléans, Nantes, Brest, que pendant la durée de la construction, on neutralisait entièrement la circulation automobile, puisque par définition, le chantier prenait la totalité de la place, que le chantier durait très longtemps, et que ça neutralisait quasiment toute activité commerciale pour les riverains, et ça créait des difficultés d'accès, y compris pour les riverains qui habitaient sur place. Donc, une nuisance, on aimerait qu'elle dure le moins longtemps possible. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quel est le temps de construction d'un kilomètre de tram, là, je ne sais pas quelles unités vous promettez, et le prix que ça coûte au kilomètre. Et un petit aparté, je voudrais être sûr de vous avoir bien compris, vous avez dit dans votre présentation que les chiens guides étaient capables d'identifier les zones à 30 km/h, que si c'est ça, je vais en adopter un pour faire ma comptabilité. Et c'était tout. Donc concernant les nuisances et puis oui, puis c'est ça, confirmation. Un chien guide est vraiment capable de lire les 30 km/h.
Il a trois questions. Le coût au kilomètre des tramways, la question des nuisances sur les commerçants et puis
la durée de construction.
La durée de construction. Oui. Comment vous y êtes pris au niveau des nuisances pour éviter que toute l'économie s'écroule?
Alors, pour le coût au kilomètre, on est aujourd'hui dans des coûts un petit peu inférieurs à ce qu'on a dépensé à une certaine époque. On a dépensé, mais c'était en francs à l'époque, on avait à peu près, on a dépensé 1,9 milliard de francs de l'époque pour 19 kilomètres de tram. Aujourd'hui, on cherche à rester dans des eaux entre 12 et 15 millions d'euros du kilomètre pour arriver à tenir dans les budgets qui peuvent être les nôtres.
D'accord. Donc, vous me confirmez que les chiens guides savent lire les chiffres.
Alors, sur les chiens guides, on est... Bon, écoutez, c'est le travail avec les associations de malvoyants qui ont entraîné leurs chiens à repérer, comme ils repèrent des obstacles, ils ont repéré ces inscriptions. Et ils les repèrent partout où elles sont. Donc je ne peux pas dire qu'ils lisent, si vous voulez, 30 km/h. Mais en tout cas, ils repèrent le marquage au sol. Et le marquage au sol leur donne un comportement particulier qui indique à la personne malvoyante que là, elle peut traverser en sécurité et qu'elle rentre dans une zone 30. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est dans la période de recherche actuelle. Ça va simplifier la vie de beaucoup de gens parce que les zones 30 sont des zones qui peuvent, ou les zones de rencontre, être compliquées à vivre pour les malvoyants dans l'usage de l'espace public. On a eu des expériences avec certains aménagements urbains où, par exemple, les décrochements pouvaient être problématiques pour les malvoyants, etc. Donc, alors, il y a ceux qui ont des chiens guides, il y en a qui n'en ont pas, mais tout ça, je pense qu'il faut travailler en permanence et avoir des itinéraires. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en travaillant avec les associations, on a décidé d'itinéraires qui étaient complètement aménagés, avec un revêtement au sol qui permet aux gens de savoir exactement où ils sont, où ils vont. Et dans les magistrales, évidemment, dans ces grands itinéraires piétons, ce sera la même chose. C'est-à-dire les gens pourront les utiliser, donc ça fera des longues distances, en fait, de marche sécurisées pour les personnes malvoyantes.
Merci beaucoup.
Et avant de passer la parole, et sur la question des nuisances, c'est-à-dire quand les travaux de tramway démarrent, les commerçants, ils voient venir le choc, puis ils vont s'opposer parce qu'ils vont perdre nombre de... Et ici, on le vit avec des voies réservées de la même façon, là, un plus petit. Comment vous y êtes pris pour...
Alors, bon, sur le problème de la durée des travaux, on a construit... On prend à peu près 2 ans et demi de construction, disons, d'une ligne qui représente entre 12 et 17 ou 19 kilomètres. C'est ce qu'on a fait, mais on est allé vraiment très très vite pour la première phase. Encore qu'on avait des places à réaménager. Donc tout dépend si on réaménage des places. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, on a installé le chantier et puis on a laissé la circulation coupée. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous avez vécu sans passer dans ces espaces, vous allez continuer de vivre sans. On a fait tout un travail d'accompagnement. Alors, on a dépensé quand même pas mal, mais c'est prévu par les textes, par la loi, c'est pas une dépense excessive, mais on a jalonné, on a chaque fois travaillé sur les itinéraires d'accès, chaque boutique était accessible, mais en même temps, c'était dissuasif, donc on a mis en place un système d'indemnisation qui a été décidé par une commission présidé par un juge à la retraite, donc totalement indépendant, et sans que les élus n'en fassent partie. Les élus pouvaient être appelés à présenter le dossier, la position de la ville, de la collectivité, mais ne participaient pas à la décision d'indemnisation. Et donc, on était obligé de payer ce qu'une commission indépendante avait décidé pour le commerçant, avec d'ailleurs les représentants de la chambre de commerce qui évaluaient, donc il fallait fournir un certain nombre de documents de bilan qui permettait de voir effectivement l'impact des chantiers sur le compte de bilan du commerce. Mais ça nous a permis de sauver certains commerces, ça n'a pas empêché certains effets d'aubaine, il y a quand même des gens qui ont réussi à s'en tirer pas mal, mais en fin de compte, tous ceux qui sont restés, qui ont passé le cap, y compris avec les indemnisations, ont constaté que leur fonds de commerce avait pris de la valeur, de la même manière que l'extension du réseau a fait monter la valeur des immeubles, des bureaux, des logements. Et donc, une opération de tramway, c'est une opération de transport, bus ou autre, mais le tramway a proportionnellement, parce qu'il avait cet effet masse, fait monter la valeur des immeubles. Et ça a été un effet qu'on a d'ailleurs, au départ, pas tout à fait anticipé. Nous, on était préoccupés de sauver les commerçants et donc de maintenir l'activité, on n'a pas complètement anticipé ce que ça allait provoquer dans certains cas. Et certains investisseurs et promoteurs, eux, par contre, ils ne sont pas trompés. Quand ils ont vu que les prix montaient, ils ont acheté en masse pour certains, y compris dans des zones d'activité, en espérant qu'un jour le plan local urbain transforme ces espaces en zone d'habitation et qui pourrait faire la culbute, quoi. Donc, si on avait pu anticiper mieux, je pense qu'on aurait fonctionné autrement. Mais un plan de déplacement urbain, c'est un plan qui crée de la valeur dans la ville et qui a donc un impact économique. Mais ce qu'on a fait avec les commerçants, c'est de la promotion, c'est de l'animation, c'est de travailler avec eux sur les conditions d'usage de la ville, c'est de travailler sur l'acheminement des courses par des systèmes de livraison, etc. C'est-à-dire le fait de pouvoir continuer de trouver tous les moyens qui permettent à des commerçants de continuer d'exercer, y compris en période de chantier.
Merci. Oui.
Oui. Bonjour, mon nom est Richard Armoire, je suis un Lavallois en Mayenne de Montréal et non de Mayenne, en Mayenne. Voici, ma question est simple. Par rapport aux routes qui ont été prises pour les rues, pour les tramways, est-ce qu'il y a des rues qui faisaient partie des routes départementales ou des routes nationales?
Alors, c'est une question tout à fait importante et intéressante. Alors, en fait, on avait déjà transféré l'État avait déjà transféré de la voirie dans le patrimoine de la communauté urbaine, puisqu'elle avait une compétence voirie. On a eu un grand débat avec le Conseil général. Il faut dire que comme le débat du tramway avait été extrêmement vif et très politique, le département avait eu l'idée de nous aider financièrement uniquement sur les parkings. Donc ça voulait dire on continue de soutenir la voiture quand vous voulez réaliser du transport public. Donc on a mobilisé, vous savez sur quoi, c'est-à-dire sur les park and ride, sur les parkings de rabattement. Et donc finalement, on a montré au département, les routes département, qui avaient ces bus qui arrivaient aussi sur ces endroits de rabattement, que finalement il y avait moyen d'articuler la réponse départementale, les voiries départementales utilisées par les bus interurbains et notre réponse à nous. Et on n'avait pas en ville de ce problème-là. On peut l'avoir en extension à l'extérieur du territoire sur des axes-là qui peuvent être des axes départementaux. C'est la raison pour laquelle la région en France et l'autorité organisatrice du transport ferroviaire, le département de l'interurbain et les communautés urbaines sont autorités organisatrices du transport public urbain sur leur territoire. Par contre, là, on avait la possibilité de mettre du tram sur un axe national avant qu'il ne nous soit transféré. Et bien là, je vais vous dire, alors là, on a passé à côté, hein. Parce que réaliser une infrastructure de ce type, quand on est obligé de passer par l'État, il faut oublier. C'est malheureux, mais il faut oublier. Et pourtant, on l'a transformé en boulevard urbain, cet axe-là. Mais voilà, on a passé là où c'était quand même beaucoup plus facile et où on pouvait maîtriser la situation nous-mêmes. Et donc, on n'a pas réalisé, y compris volontairement, de tramway des axes nationaux. Par contre, on a transformé, là, il n'y avait pas d'image, mais il y avait un axe qu'on appelait la route de Colmar, donc qui va vers une ville plus au sud, et qu'on a transformé en avenue. Et on l'a rebaptisé avenue de Colmar. Et le tram, circulant au milieu, avec un réaménagement complet de la voirie, a permis d'avoir une toute autre perspective et un tout autre usage. Alors ce que je veux dire par là, c'est que partout on a mis du tram, des feux et un aménagement pour les cyclistes, les piétons, parfois aussi encore avec du stationnement, mais une circulation plus réduite, automatiquement on a constaté qu'il y avait une diminution de la rapidité, de la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'aménagement qui sont absolument efficaces. Ça ne suffit pas, bien sûr. Vous aurez toujours des gens pour faire des excès de vitesse. Mais vous avez... Alors, pourquoi l'effet de resserrement d'un espace auquel on doit être attentif, parfois d'ailleurs on l'a poussé un peu trop loin, parce que je trouve qu'on a parfois gêné l'automobiliste, et je ne crois pas qu'il faille gêner l'automobiliste, je ne crois pas qu'il faille lui créer des difficultés de conduite ou des chicanes trop difficiles à négocier. Ça, je n'aime pas tellement. Mais je pense qu'il y a un effet du regard, il y a un effet d'attention et il y a un effet de vécu de l'espace. C'est-à-dire quand l'espace est plus resserré, la vitesse est moindre. Et ça, c'est un effet maintenant qu'on peut juger à force d'avoir testé nos aménagements. Donc je pense qu'il y a un gain aussi de sécurité dans ces zones-là.
Merci.
Oui.
Merci. Excusez-moi. Mon nom, c'est Pierre Brisset. Je suis le gros gardien en recherche urbaine. Maintenant que j'ai plus de gros, j'appelle gros gardien. Ma question est simple. Comment changer le paradigme ici qu'on a ici à Montréal? On va investir des milliards, comme l'a dit Coralie Denis au début. On va dépenser des milliards à reconstruire des autoroutes en plein centre-ville, des choses qu'on ne fait plus du côté occidental. En tout cas, bref, je ne connais pas de ville qui veut reconstruire des autoroutes en plein milieu urbain pour 10 milliards sur 10 ans. Imaginez, il faut changer le paradigme, mais on ne sait pas comment. On est une ville où on fait tout en double. Deux aéroports, dont un qui a coûté 1 milliard qu'on va démolir, deux autoroutes est-ouest, deux hôpitaux, des structures désuètes qui nous sont livrées par le gouvernement fédéral, alors il faut en construire un autre. Comment changer le paradigme pour aller plus, comme vous dites, moi, je suis un véritable automobile.
Ça, c'est, je pense que c'est extrêmement difficile parce que si je perçois la ville telle qu'elle est, bon, d'abord, je pense qu'il y a à Montréal une opportunité assez fantastique parce que c'est une ville mixte. Elle est à la fois européenne dans certaines pratiques, elle est même par moments assez méditerranéenne, etc., avec sa qualité de vie urbaine, ce qui fait qu'on adore venir à Montréal. Enfin, je veux dire, c'est une ville qu'on aime. Et en même temps, c'est une ville américaine avec la place de la voiture, avec le traitement de ses espaces, avec son quadrillage. Alors, bon, je suis pas... On m'a pas demandé de refaire le plan de Montréal. Mais
on pourrait vous engager, hein, si vous voulez.
Mais
bienvenue.
Vous savez, c'est tentant. Hein. C'est tentant de mettre des petits obstacles. Parce que ma fille qui habitait sur Sherbrooke... Bon, moi, j'y ai vécu aussi quelques semaines. Quand j'allais la voir, ben, je vais vous dire, Sherbrooke, c'est pas facile à traverser, toujours. C'est sacrément polluant, c'est sacrément encombré. Le bus a du mal à circuler. Bref, j'ai utilisé le métro, les bus à Montréal, tout ça. Donc, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait moins. J'ai vu comment les gens marchaient. Ici, il y a du vélo. Et je vois bien d'ailleurs que le vélo augmente, la pratique du vélo augmente. C'est une ville qui est agréable en vélo. Donc je pense, mais alors évidemment, on a le climat. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Le problème, c'est qu'il faut trouver la capacité en transport public qui permet de répondre par une solution alternative. Sinon, il faut qu'on continue de construire ces grandes autoroutes. Parce que, bon, il y a un moment... alors, est-ce que c'est moins cher de penser faire un système alternatif? Je pense que, dans le plan urbain, il y a quand même une chose qu'il faut, enfin, par rapport à laquelle la ville est très concernée. Un, c'est d'habiter en ville. Deux, c'est de voir s'il n'y a pas des poches de qui se vident. Moi, je trouve qu'à Montréal, il y a des espaces... qu'il ne faudrait pas laisser comme ils sont. Des espaces qui sont un peu incertains, où il y a des aménagements qui sont terminés, et des espaces qui restent entre deux, où on a du stationnement plus ou moins organisé ou plus ou moins sauvage. Il y a un problème, je pense, de rapidité d'aménagement. C'est-à-dire que, alors c'est compliqué à cette échelle, mais... Alors peut-être qu'il y a aussi des propriétaires privés. Bon, nous, on a aussi exproprié. Il faut le dire. Quand on voulait passer avec le transport en commun, on a exproprié. Donc on était chez nous. Mais quand vous expropriez, bah, vous avez le feu aux fesses. Parce que si le propriétaire qui s'est fait exproprier, vous ne lui montrez pas que vous allez réaliser un aménagement, bah, vous avez le procès. Donc, bah, vous réalisez. Donc, je parlais de cet enjeu de citoyenneté, mais il y a aussi du rapport de force. Il y a aussi eu des procès. Il y a aussi eu des choses un petit peu plus violentes quand les gens ne veulent pas s'engager dans un pourparler négocié. Bien. Alors, c'est ça que je ne maîtrise pas, moi, dans la loi ici. C'est quelles sont vos possibilités? Est-ce que vous avez des possibilités de préemption? Est-ce que vous faites le choix... de l'expropriation, le cas échéant, pour utilité publique. Est-ce que vous pouvez? Comment est-ce que vous planifiez? Il y a aussi de multiples décideurs. Et donc, moi, je ne peux pas non plus juger à la place. Mais c'est vrai qu'il y a, dans le centre de Montréal, il y a un besoin peut-être d'arriver à ce que on n'ait pas une juxtaposition, un petit bout de piétonnisation, puis ensuite ça s'arrête. Puis après, on a des aménagements, puis à côté, un terrain vague. Là, il y a peut-être des choses à voir, quoi. Moi, je sais que chez moi, ça ne passerait pas. Enfin, alors les Alsaciens, vous savez, c'est un peu des germaniques. Alors, ils sont organisés, ils sont rigoureux, ils aiment que ça soit propre, organisé, il faut des arbres, il faut l'un. Moi, je leur ai expliqué qu'une place, il fallait aussi des façades. Des fois, ils ne comprennent pas, mais bon, C'est voilà. Donc je pense que dans une grande ville comme celle-là, on sent qu'il y a un tissu en mutation et on ne sait pas très bien comment il mute. En revenant après plusieurs années ici, j'ai un peu cette impression. C'est-à-dire que pour moi, le quartier des spectacles, quand j'en ai entendu parler au moment où ça se réalisait, où j'en discutais avec Louise Baudouin, c'était le moteur de l'aménagement de Montréal, de son dynamisme et de son attractivité. Et donc, pour moi, le quartier des spectacles, je pensais qu'il était terminé. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est en cours. Eh bien, il n'est pas tout à fait fini. Donc, je sais que ça prend du temps. Et je pense qu'il y a aussi, dans des espaces plus, comme je le disais, plus incertains, des opportunités. Simplement, ce que je ne peux pas du tout imaginer, parce que quand vous regardez une ville, vous pensez aussi aux propriétaires privés, vous pensez aux promoteurs, vous ne pensez pas qu'aux services publics. Donc, c'est comment ça s'organise dans la ville. Et s'il y a une mobilisation des professionnels pour faire en sorte que cette ville ait un investissement suffisant. Je prends un exemple. Quand on a réalisé notre plan de déplacement, je me suis dit, si je n'ai pas les propriétaires avec moi, ça ne va pas marcher. Ils vont avoir les travaux et ils vont être furieux. Ils vont penser que leur immeuble ne va plus rien valoir. Enfin, ça va me faire des conflits à n'en plus finir. On a mobilisé toutes les aides publiques possibles pour accompagner le ravalement et la réfection des façades. Et en fait, tout le monde s'est mis. Vous savez, c'est un truc, vous en avez un qui commence à un bout de la rue, vous en avez un autre qui commence, qui dit « Ah, il y a des subventions, bah, moi je vais aller les chercher, c'est une opportunité, etc. » Et donc, ça a été sympathique, parce que au bout d'un moment, on a aussi, pas tout le monde, mais ça a créé un mouvement dans l'investissement privé. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est devenu automatique, donc plus personne ne fait attention à ça. Mais au début, il fallait aller toquer, aller voir les propriétaires, les chercher, leur dire « vous ne voulez pas arranger votre façade, vous avez un balcon qui s'écroule, attention, là, vous, je vais vous faire un arrêté de péril et vous allez voir ce que vous allez voir, etc. » Le jeu n'est pas toujours facile. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un problème toujours dans une transformation urbaine de mobilisation de l'investissement privé, tout le monde n'y a pas toujours intérêt. Donc ça c'est un vrai problème, c'est le rythme avec lequel on transforme la ville. Alors, à Strasbourg, c'était plus petit, tout le monde m'avait dit que je serais battu au coup suivant, puisque ceux qui avaient réalisé les trams, à Nantes et à Grenoble, avaient été battus, les maires. Donc on m'a dit, tu fais un truc pour être battu. J'ai dit, non, je n'avais pas quelque chose pour être battu, j'ai été élu au premier tour. Au premier tour, parce qu'on avait une méthode, une gestion de projet qui était une gestion complètement autonomisée et qui faisait attention à tout, parce qu'il y avait une conduite politique serrée et parce qu'il y avait un calendrier, parce que le rythme de réalisation des chantiers était déterminant. Quand j'ai expliqué aux gens dans les réunions de concertation, le tram sera terminé tel jour à telle heure, il fallait qu'il soit terminé tel jour à telle heure. Quand je leur ai dit « on va tenir l'enveloppe », et on a toujours tenu toutes nos enveloppes, c'était « il fallait le faire ». Alors on a dû jouer, on a dû faire des déplacements de lignes de crédit, de dépenses, etc. Mais ça c'est dans la gestion, et on avait un système de contrôle qui était une société qui évaluait régulièrement à la fois la gouvernance du projet, la dépense et le rythme, le temps passé dans les travaux et qui allait aussi sur place voir les gens et les gens parlaient. Donc on a été confrontés et par moments c'est dur. Quand vous avez une boîte qui vous dit, là vous vous plantez quoi. Hein. Donc on a eu des moments où il fallait qu'on revoie notre stratégie, qu'on change notre méthode, qu'on l'adapte. On a mangé énormément de chocolat. On a travaillé nuit et jour, mais on est arrivé au bout. Parce que si je vous dis dans quelles conditions ce tram a été construit, vous ne me croiriez pas, parce qu'il a été construit dans la difficulté. Parce que les gens qui avaient inventé les bogies se sont fait tout prendre par la police italienne, c'est une entreprise italienne, et comme on était dans une période de scandale, vous savez, il y a eu cette opération main propre, et un beau jour on m'appelle et on me dit, la police a tout pris. Les ordinateurs, les disques durs, les plans, il n'y a plus rien. Plus rien. Et moi, je me dis, voilà, la catastrophe totale. Et des gens extraordinaires, parce que tout le monde était animé de la même volonté de faire. Parce qu'on avait une démonstration, si vous voulez. C'était un truc, c'était un projet, on prenait tellement de risques politiques là-dessus que finalement, les gens qui y ont participé à une aventure. Hein. Et en fait, ça a été extraordinaire. Ces gens, la firme ABB leur a payé un hôtel, a réservé un hôtel, leur a dit « calmez-vous, installez-vous, fournissez les ordinateurs ». Ils ont tout restitué. Tout restitué. On leur doit, mais vraiment, ça a été formidable. Mais c'était tout le temps comme ça. Le designer belge, vous savez la forme du tram à Strasbourg qui ronde comme ça. Bon, ben c'est parti d'un moment où on s'est empoigné et il est parti en claquant la porte en me disant que je ne comprenais rien. Parce que je lui ai dit, vos plans, c'est un mur circulant dans la ville. Il m'a dit, madame, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas ce que c'est qu'un tram, je le fais comme je le pense, c'est pas vous de décider. J'ai dit, ben si c'est pas à moi de décider, c'est certainement pas comme ça qu'on va continuer de travailler. Il a pris la porte, il est parti. J'ai plus entendu parler de lui pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, il est arrivé, il avait 3 boîtes. C'était pas loin de Noël, d'ailleurs. Et moi, je me dis, je comptais le temps. Hein. Et là, j'ai commencé à flipper une deuxième fois. Et il me dit, comme ça, il avait une voix. Il dit, ouvre la première boîte. J'ouvre la première boîte, je vois une espèce de rocher. Et puis, j'ouvre la deuxième boîte, ça commençait à avoir une forme. Et je lui dis, c'est le nez du tram. Et c'était le nez du tram. Et en fait, je lui avais expliqué qu'il fallait trouver un système qui n'ait absolument aucune aspérité pour ne jamais accrocher un piéton. On lui a mis même une jupe. On disait c'est le chasse cycliste. Bon, et ça n'a pas été un chasse cycliste d'ailleurs. Enfin, non, ce qu'on disait les chasse cyclistes, c'était plutôt pour les 4x4. Ça, c'était un protège piéton. Et donc, il n'y a absolument rien sur le tram. Il n'y a pas une aspérité, il n'y a pas de dépassement, il n'y a rien du tout. Et la première personne, une dame qui a voulu se suicider, parce que comme le tram était célèbre et qu'il y avait beaucoup de médias qui s'en préoccupaient, elle s'est mise comme ça devant, elle s'est jetée sur le tram, et le tram l'a repoussée tranquillement. Et j'ai pu dire à la dame, non, raté, c'est pas comme ça que vous pourrez vous suicider. Cherchez un autre moyen. Je ne lui ai pas dit, mais voilà. Et donc, même un enfant, et on avait essayé, vous savez, des mannequins. Alors, malheureusement, on a eu des accidents, des percussions, des gens qui ne faisaient pas attention à l'arrivée du tram et qui ont été percutés, y compris en véhicule. Ça, c'est pour les cyclistes, ça a été méchant. Ou alors, des vélos qui ont été, vous savez, qui ont été, la roue a été prise et le cycliste restait accroché dans son vélo. Donc, ça... La cohabitation tram-vélo, il a fallu y revenir pour que les gens ne prennent pas de risques, ne traversent pas quand un tram arrive. Mais sinon, la cohabitation piéton-tramway, c'est pas du tout la même chose que le bus, sauf quand il est en site propre. À Strasbourg, vous avez des gens qui sont à 50 cm du tram. Je ne dis pas le stress du conducteur de tram, parce qu'en période de Noël, on a 1 million de gens qui circulent dans la ville. C'est infernal de rouler en tramway, parce que c'est quand même lourd. Hein, et ça a une inertie dans sa vitesse, mais ça marche. Et donc, ça, c'est, je pense, le résultat aussi de ce travail qui a été un travail à la fois de performance, mais un travail aussi de forme et de couleur. C'est-à-dire qu'on a choisi, et c'est là où j'avais un conflit aussi avec le designer, qui voulait nous mettre un tram rouge ou blanc dans la ville, et moi je lui ai dit non, on va prendre les couleurs effectives du paysage urbain, la couleur du grès et la couleur des arbres. Et il est devenu, il a une couleur un peu beige rosé du grès, et il a du blanc et du vert, et en fait ils se font dans le paysage urbain. Donc c'était autre chose, c'était pas le système, et en fait il est transparent pour que les gens dedans voient l'extérieur, et que les gens de l'extérieur voient dedans, et qu'il y ait une transparence, et que les gens soient invités à l'utiliser, ce qui a, je crois, assez bien marché.
Merci.
Merci. Alors est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Sinon ça met... À gauche.
J'aurais une question au sujet de l'effet sur la santé des Strasbourgeois de marcher et aussi de respirer moins de vapeur de voiture. Est-ce qu'on a pu faire déjà, avec le temps qui a passé, une évaluation quantitative de cette amélioration de la santé des Strasbourgeois?
Alors ça, c'est à la fois ma satisfaction, c'est qu'on a baissé le niveau de pollution atmosphérique de la ville et du centre-ville en particulier, mais la quantité de pollution qui reste dans l'atmosphère est restée à peu près identique parce qu'on a un déversement des autoroutes allemandes qui sont payantes pour les camions vers notre autoroute qui est en même temps un périphérique, et que la pollution qui est créée par les embouteillages et par cette circulation abondante compense, si je puis dire, la baisse de pollution que nous avons provoquée. Donc, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, ça m'a désespéré. Vous pouvez vraiment avoir une politique qui réussit, y compris sur la réduction de la pollution. Et on a fait aussi une autre démarche qui a été reprise dans la loi française et étendue partout. On avait un problème avec, puisque le port est un port urbain, donc il est à proximité de l'habitat, et on avait une entreprise qui posait problème avec des odeurs, des risques, etc., du bruit. Et on a monté une structure, là aussi une commission qui rassemble tous les partenaires, y compris les services de l'État, et qui est présidée par un universitaire indépendant. Vous avez les associations de quartier, les associations de défense de l'environnement, les industriels, et on a réussi à faire baisser et à traiter toutes les questions de pollution, de bruit, au niveau des zones industrielles. C'est pour ça que je peux vous dire, à Strasbourg, ce travail concerté, accepté par tout le monde, a eu un effet extrêmement positif. Tous les industriels s'y sont mis. Il y a encore des odeurs, parce que les odeurs, c'est très compliqué à neutraliser, mais petit à petit, on les réduit aussi. Par contre, ce qu'on a gagné dans la circulation et par notre plan de déplacement est en partie perdu par cet excès de circulation sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer notre autoroute périphérique, qui sert de périphérique, dans un boulevard urbain. On va y mettre du transport en commun dessus, du transport en site propre, et on va faire un itinéraire qui sera réservé au trafic de transit. Donc, au lieu de faire une grande autoroute, on va reséparer les modes et on va civiliser et urbaniser notre autoroute. Et donc, ce sera une des solutions que l'on pourra mettre en place. Et ça sera la fin de la boucle. Je pense que la boucle sera bouclée quand on aura démontré qu'on est capable, avec la même démarche, avec le même souci de favoriser la mobilité, de traiter, y compris un réseau autoroutier, pour le transformer et le réaménager. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura vraiment terminé, je pense, enfin terminé pour nous en tout cas, notre boulot, parce que ça nous a déjà pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais en même temps, beaucoup de plaisir. On a décidé de créer une forme d'institut de la mobilité. Il y en a déjà un à Lyon, mais on va aussi avoir notre structure, parce qu'on a un pôle d'excellence qui est un pôle véhicule du futur, où on travaille sur tous les systèmes embarqués, sur les nouvelles formes de véhicules tout à fait non polluants. Donc ça, c'est intéressant. Mais en même temps, on a mis au point d'ailleurs une expérience qu'on n'a pas pu utiliser, parce que des fois, comme on le disait, on va plus vite que la musique. Et en fait, on avait soutenu dans un programme une recherche sur un véhicule automoteur qui pouvait être guidé par ordinateur sur notre parc d'innovation. Et en fait, pour désigner ce type de véhicule, il n'y a aucune catégorie réglementaire. Donc, une fois que nous avions inauguré l'expérience, le lendemain, on a dit au président de la communauté urbaine: vous arrêtez tout. Vous êtes complètement en dehors des clous réglementaires. Donc, on peut encore avoir des boires comme ce que je viens de vous dire. Mais bon, ça fait partie de... Je pense que dans quelques temps, comme par le passé, où on a fait rentrer les plans de déplacement dans la loi et dans la possibilité d'accéder à des subventions de l'État, je pense qu'on fera rentrer ce type de véhicule dans la réglementation française. Je vous souhaite beaucoup de courage. Pour tous ceux qui sont responsables de l'urbanisme à Montréal, c'est une ville où je pense qu'il y a énormément d'opportunités. En tout cas, moi, j'ai un plaisir immense à y être. Et c'est parce que je l'aime que je vois aussi qu'il y a deux, trois petits points sur lesquels elle pourrait être vraiment transformée. La transformation urbaine, un enjeu de citoyenneté, aussi au Québec. En tout cas, j'aurais compris que c'est le cas par vos questions. Je vous en remercie beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup, Madame Trottmann. Vraiment, c'était passionnant, c'était intéressant. Vous avez eu un public conquis et nous allons nous rappeler. Je ne sais pas si on va le pratiquer, si on va pouvoir le pratiquer, mais on va au moins se rappeler ce que vous nous avez dit. Et je pense que chacun dans ses petites cellules va pouvoir se dire, ben, moi, je vais faire ma part, je vais essayer de faire ma part. Mais ça ne changera pas la nécessité que, et vous l'avez bien démontré, qu'au niveau des politiques, au niveau de la gouvernance, vous nous avez dit, ça prend d'avoir un plan d'action, d'avoir une vision, de savoir où on s'en va, puis de s'y tenir, de ne pas changer de chemin, puis de le faire, même quand la tempête souffle. Alors merci beaucoup, et puis à la prochaine fois, puis merci pour vous tous, pour les questions et puis pour votre attention.